Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, daté du 26 octobre 1994, et rediffusé ce dimanche 7 octobre 2012 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bonsoir à tous. Je voudrais bien ne pas avoir à commencer toutes ces émissions par des mauvaises nouvelles, mais le fait est que cette semaine, une fois de plus, notre famille a été frappée par un deuil particulièrement douloureux, puisqu'il s'agit d'un des hommes les plus importants à tout point de vue de la famille nationaliste. C'était Pierre Durand. Pierre Durand, qui était le mari de Marie-France de Brême et le père d'Hortense, et qui est mort à l'hôpital samedi après-midi. Et je crois que le meilleur hommage qu'on pouvait lui rendre sur dans cette émission du mercredi soir, c'était de demander à celui qui a été à la fois son ami, son compagnon de combat, son frère, je sais pas quel mot employer, mais son baisson, dirait-on, dans certaines provinces, depuis, je sais pas, 40 ans. Et c'est Jean-Marie Le Pen. Alors, je crois qu'on a Jean-Marie Le Pen en ligne. Il était à Marseille. Il est à Marseille. Et il a accepté d'interrompre une réunion à laquelle il participait pour nous parler de son ami Pierre Durand. Jean-Marie.
Bonsoir, Serge.
Bonsoir, Jean-Marie. Alors, je suis un petit peu gêné je mesure, parce que je sais l'amitié que vous aviez pour Pierre, je mesure la souffrance que vous pouvez ressentir, mais en même temps, je sais que vous serez heureux de pouvoir faire partager cette amitié à nos auditeurs. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de Pierre, celui que vous avez connu, pas forcément celui que tout le monde dans la famille a pu connaître, pas forcément le militant d'Action Française puis de Front National, pas forcément le directeur de Présent, pas forcément le secrétaire national au Dom-Tom, mais plutôt l'homme de culture, enfin celui dont vous avez envie de parler.
Je pense que beaucoup de vos auditeurs auront à cœur d'assister peut-être aux obsèques de Pierre Durand qui se dérouleront vendredi à 11h. À l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, et je prononcerai une allocution à la sortie de l'office religieux pour rendre à Pierre Durand l'hommage public qu'il mérite de la part d'abord de son ami, probablement le plus intime, de fraternel que j'étais, puisque je connaissais Pierre et que pratiquement nos vies s'était déroulé de façon parallèle pendant 45 ans. J'ai connu Pierre dans des circonstances qu'il évoquait d'ailleurs en souriant, en disant « Jean-Marie m'a ramassé dans le ruisseau ». Et matériellement, c'était vrai, puisqu'il avait 16 ans, il était lycéen, il vendait le journal de l'AF quand il a été pris à partie par une bande de voyous trotskistes qui étaient en train de le massacrer. Je ne le connaissais pas, mais j'ai vu un petit jeune homme aux prises avec ces agresseurs que je connaissais bien. Alors là, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. J'ai d'abord tapé dans le tas, n'est-ce pas, comme on le faisait à cette période virile au quartier latin où les communistes faisaient la loi, en tous les cas, allaient encore la faire, jusqu'au moment où un certain nombre de gens, comme moi, ont décidé de reconquérir leur liberté. Et donc, j'ai ramassé de petits Pierre après leur départ, après leur fuite. Pierre était en sang, et c'est la première fois que je le voyais. Je n'allais pas le quitter, nous n'allions pas nous quitter pendant 45 ans, puisqu'il est mort à l'âge de 61 ans, tout à fait récemment, à la suite d'une brève maladie. Il a eu une péritonite aiguë, et Pierre nous a quittés sur la pointe des pieds comme pour ne pas nous déranger au moment de partir. C'était un être exceptionnel, et qui avait à la fois la solidité du Cévenol qu'il était, mais aussi la profonde culture de romanité, admirateur de Charles Maurras. Et c'était en même temps un montagnard et un méditerranéen, très romain même par le physique. Il avait une tête qui aurait pu inspirer une médaille. Et c'était un militant exceptionnel. Il a eu une vie d'ailleurs passionnante tout de même. Et il me disait souvent, je serai ton Comines, ton Villehardouin, ton Joinville. Parce que moi, je t'ai vu vivre et je serai en mesure de dire la vérité sur toi contre tout ce qui s'écrit, ou tout ce qui se dit, ou tout ce qui se montre. Et je lui avais fait un peu reproche la dernière fois qu'il était venu déjeuner avec moi. Et il m'a dit, mais j'ai plein de notes, je ferai ça, mais je suis, voilà, quand j'aurai un tout petit peu plus de temps, eh bien, le bon Dieu ne lui en a pas laissé. Et je dois dire que c'était une grande émotion pour moi que de pouvoir évoquer sa mémoire devant vos auditeurs, car c'était une figure, on peut dire au sens le plus noble du terme, une figure du combat national. Il avait été pratiquement avec moi fondateur de tous les mouvements qui ont constitué les étapes de la reconstruction du mouvement national. Et toujours avec une très grande modestie, au moment de désigner ceux qui allaient être en quelque sorte honorés par les hautes fonctions électives, eh bien, il présentait toujours ses amis devant lui, et c'est pour ça qu'il n'a pas été député, ni député européen. Il s'est contenté d'être conseiller régional d'Île-de-France, où d'ailleurs il exerçait une influence tout à fait positive, en même temps qu'il a été pendant plus de 10 ans, enfin 10 ans, en tout cas, le directeur, le co-directeur de présent avec notre ami Jean Madiran. Alors, Pierre avait beaucoup d'amis, parce que c'est un garçon qui avait beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité, mais il avait un courage, comme il faut que... Bien sûr, je ne prolonge pas cet entretien. Je voudrais dire ce qu'il m'a dit la dernière fois que je l'ai vu, quelques jours avant sa mort. J'avais été lui rendre visite à l'hôpital, et il a eu en quelque sorte une espèce de... Il a été lucide entre deux comas, très lucide, et il m'a dit, tu vois, toute ma vie, j'ai eu peur de la mort. Je n'ai pas eu peur de l'affronter, mais j'avais peur de la mort, je détestais la mort, et puis je l'ai rencontré ici, au rendez-vous, où elle m'attendait. Et je n'en ai pas été du tout impressionné. Je suis complètement maintenant détaché, libéré de cette crainte qui, dans le fond, avait accompagné ma vie. Je crois qu'il avait eu aussi la chance, je lui avais fait rencontrer l'abbé Molin, et Pierre est parti comme à la fois un adolescent qui était toujours resté, mais l'adolescent que l'on voit dans les livres de Serge Dalin, un peu le petit prince, c'est le petit Pierre.
Jean-Marie Le Pen, si on vous demandait l'image, si vous deviez garder une image ou un souvenir, une anecdote à propos de Pierre, un moment, qu'est-ce que ce serait?
J'en ai tant que je ne peux choisir, mais je me souviens d'un moment où j'ai vraiment connu les plus basses eaux du militantisme national. C'est en 68, pendant que le quartier latin était occupé, je me suis présenté quand même contre Capitan, qui se présentait sous l'étiquette La Révolution avec De Gaulle. Sa permanence était d'ailleurs encadrée de deux gigantesques effigies, celle de De Gaulle et de Fidel Castro. Et vous savez, le quartier latin était occupé par les émeutiers, et par les CRS. Et il ne me restait plus, comme partisan, si j'ose dire, pour ma campagne électorale, que Pierre Durand et Nana, ma petite bonne bretonne. C'était la dernière équipe des nationaux dans la campagne. Et Pierre a témoigné là d'une impassibilité, d'un courage et d'une ardeur qui faisait l'admiration de tout le monde, y compris des CRS qui essayaient de nous dissuader d'aller dans les parties du quartier qui étaient occupées par les gauchistes. Et nous avons fait cela. J'avais quand même ma précaution personnelle, si j'ose dire, ce qui nous rassurait un peu, mais tous les trois. Mais je pourrais en raconter une autre, je peux raconter, c'est nous avons vécu ensemble avec Claude Joubert.
Alors, il faut rappeler que Claude Joubert était. Voilà. Il faut rappeler que Claude Joubert était un journaliste de télévision.
Oui, absolument. Avec la voiture de l'ORTF, on avait réussi à suivre le fourgon cellulaire qui amenait Bastien Thiry au supplice. Et nous avons réussi à longer le mur. Et nous avons à quelques mètres entendu la salve et le coup de grâce. Et nous nous sommes retrouvés quelques dizaines de minutes plus tard au cimetière de Thiers, dans l'abominable carré des fusillés, ça, et dans la boue, à 6 heures du matin, pour faire la première prière avec Pierre et Claude Joubert. Aujourd'hui, ils sont tous les deux disparus.
Oui, Claude est mort
d'une
crise cardiaque il y a quelques années.
Parce que nous avons été souvent à la peine, mais j'ai beaucoup de souvenirs de joie et de tendresse. Parce que vous savez, sur 45 ans, Dieu merci, il n'y a pas que de la misère et des larmes. Il y a aussi des rires, des joies, et joie de l'esprit, joie du cœur. Pierre était très cultivé, nous parlions d'histoire, littérature, et puis nous étions gays, nous étions des Gaulois, nous, n'est-ce pas? Pas tout à fait de la même province, mais tout à fait unis par le cœur et l'esprit.
Jean-Marie, je vous remercie. Je vais vous, nous allons vous quitter. Nous allons vous rendre à votre, à vos amis qui vous reçoivent pour cette réunion à Marseille.
Merci d'avoir consacré tout ce temps à m'écouter en hommage, je crois, à notre ami à tous. C'était vraiment l'ami Pierre.
Merci Jean-Marie Le Pen. Au revoir. Thank you. Eh bien, décidément, on a du mal à trouver. Moi, j'ai plutôt un caractère enjoué de nature. Mais j'ai du mal à trouver dans l'actualité de quoi m'enjouer, si j'ose dire. Parce que... on n'est pas mort de rire. Je dois dire que... dans ce monde de canailles, vraiment de canaillerie généralisée, il y a quand même des moments où on croit avoir atteint une espèce de sommet de la crapulerie et de la canaillerie intellectuelle. Je ne parle pas de la crapulerie et de la canaillerie matérielle, parce que ça, de toute façon, il n'y a pas de sommet. Mais sur le plan intellectuel, on croit qu'on atteint des sommets, qu'on a touché des sommets parfois. Et on s'aperçoit toujours que non, il y a une espèce de compétition enjouée qui fait qu'il y a toujours des gens qui font mieux que d'autres. Et dans ce domaine de la surenchère, dans la désinformation et dans le... disons dans la désinformation pour rester poli, il y a quand même un journal qui est assez fort. C'est... je ne veux pas vous étonner, c'est le journal que De Gaulle appelait l'immonde. Et vraiment, pour une fois, je dois dire que je ne peux pas dire que je suis en désaccord avec le général. On a une démonstration du bien fondé de ce surnom avec la façon dont ce quotidien vient de traiter une affaire qui est une affaire énorme, qui est une affaire, à mon avis... probablement l'affaire la plus importante de ces derniers mois, qui est la participation de Don Gérard Perabé du Barou à une opération de sauvetage. Vous savez que les opérations de sauvetage, qui se multiplient, consistent pour des citoyens lambda, à se rendre dans des établissements, dans des abattoirs humains, où on pratique l'avortement à la chaîne, et à être présent en s'enchaînant à des portes, à des tables d'opération, à être présent pour témoigner de la non-complicité avec ce crime, avec ce génocide politique, en tout cas génocide politiquement organisé, de la non-complicité d'un certain nombre de Français. Car dans cette affaire, il faut reconnaître qu'il n'y a pas tellement le choix. Le pape nous l'a dit, et nous l'a répété plusieurs fois, reprenant en quelque sorte la parole du Seigneur, « Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Et en l'occurrence, on ne peut pas rester neutre. Si on n'est pas contre... on est très exactement pour. Et si on n'est pas opposant, on est complice. Il n'y a pas de possibilité intermédiaire. Or, les sauveteurs, eux, témoignent que des Français restent opposants par le moyen pacifique de la présence à l'avortement. Or, jusqu'à présent, ces opérations de sauvetage qui sont... combattu par l'intelligentsia médiatique et politique avec l'appui de la connentsia policière et judiciaire qui matraque littéralement les sauveteurs en leur infligeant des peines extrêmement graves, extrêmement lourdes. Jusqu'à présent, ces opérations étaient menées par des gens simples, des citoyens lambda, des pères de famille, des mères de famille, et ça se passait toujours, ce qui est très surprenant, ça, ou plutôt ça ne trouvait jamais d'écho auprès d'une catégorie qui devrait pourtant être très concernée, comme on dit, et qui est le clergé. Or, pour la première fois, je parle même pas des évêques, pour la première fois, un prélat, car... Don Gérard, père abbé du Barou, est prélat, c'est-à-dire qu'il a rang en quelque sorte d'évêque, il est mitré et crossé. Pour la première fois, un prélat s'est associé à une opération de sauvetage en participant lundi à l'occupation de l'abattoir humain de Grenoble. C'est un symbole très très fort pour ceux qui ont de la mémoire, car les premiers avortements interdits mais non poursuivis se sont pratiqués à Grenoble. Premier avortoir officiellement ouvert malgré la loi, c'est-à-dire ouvert par des gens qui ont sciemment violé la loi pour imposer la volonté d'une minorité, pour imposer d'une façon illégale la volonté d'une minorité contre la décision d'une majorité exprimée d'une façon légale par la loi. Le premier avortoir a été ouvert à Grenoble il y a maintenant une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Et donc c'est à l'hôpital Michalon de Grenoble que, pour la première fois, un prélat s'est associé à une opération de sauvetage. Parfaitement pacifique, je le précise. Aucune violence, évidemment. Cette opération est d'autant plus importante que se sont associés à elle deux garçons malades du sida. J'ai eu le bonheur de dîner récemment avec l'un d'eux, qui s'appelle Dominique Morin, et qui est un personnage bouleversant, parce que il est, on n'ose pas dire la chose, je suis gêné de le dire, mais c'est la vérité, il est jubilatoire. On a l'impression, vous savez, en parlant avec lui, j'avais l'impression de rencontrer un chevalier du Moyen-Âge, comme il en est présenté dans les chansons de geste, qui meurt avec le sourire et la chanson aux lèvres. Et qui remerciait la Providence de lui avoir offert cette occasion de servir avant de mourir. Et c'est vraiment un moment qui compte dans la vie d'un homme, une rencontre pareille. Or, ce garçon était à Grenoble. Lui dit, moi je suis responsable de ce qui m'arrive, puisque j'ai eu une vie qui m'a conduit à avoir cette maladie. Et l'ami avec lequel il a entrepris cette opération de sauvetage, qui est aussi malade du sida, dit la même chose. Alors il y a un double courage chez ces gens-là. Il y a d'abord le courage d'affronter leur maladie, et puis il y a le courage de ne pas se présenter comme les victimes d'une injuste fatalité. Et donc c'était un événement, cette occupation-là était un événement énorme, à cause de la présence de Don Gérard et à cause de la présence de ces deux hommes qui sont, comme nous tous d'ailleurs, promis à la mort, mais qui affrontent cette certitude, encore plus pesante et immédiate pour eux que pour nous, avec, je l'ai dit, une espèce de jubilation magnifique. C'était l'occasion pour la presse de parler de cette affaire d'une façon non partisane et d'une façon honnête. Or, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu d'abord Canal+, qui a présenté un bref reportage au cours duquel, d'ailleurs, Dominique Morin pouvait dire quelques mots. Et puis on a eu ensuite l'opinion d'un saltimbanque qui était sur scène, qui était donc à l'écran, et vers lequel l'animateur de l'émission s'est tourné en disant, après le reportage, « Alors qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que maintenant, la mode est de demander aux saltimbanques leur avis sur tout. Et en l'occurrence, il s'agissait de cette affaire. Et ce saltimbanque a dit « Eh bien, ça prouve que les fanatiques sont partout, que les intégristes sont partout, surtout chez les catholiques. » Évidemment, lui n'était pas du tout concerné, ça c'est certain. Et ça prouve que le danger n'est pas seulement chez les islamistes. Autrement dit, ce personnage mettait sur le même pied les attentats commis
par les fanatiques islamistes en Algérie, qui tuent chaque jour des dizaines de personnes, d'ailleurs en concurrence avec l'armée FLN qui tue également des dizaines de personnes tous les jours, mettez en concurrence ce meurtre organisé, mettez en parallèle ce meurtre organisé par les fanatiques islamistes en Algérie, en Égypte et un peu partout dans le monde, avec la défense de la vie organisée par des catholiques en France. Et là, quand on est en face de ce genre de situation, on est obligé de reconnaître que quand même l'autre, celui d'en bas, le grappin, s'y connaît en matière d'inversion. Ça a été la première réaction à laquelle j'ai cité. Mais la deuxième, c'est encore pire, parce que c'est dans, justement, ce journal dont je parlais tout à l'heure, et qui est l'Immonde. Alors, l'Immonde a parlé d'abord de commando anti-IVG. Un commando, dans le vocabulaire courant, enfin, j'ai en face de moi Michel Blanza, qui est collectionneur de coquilles et coccigrues, et avec lequel on parlera tout à l'heure, j'espère, de choses plus gaies, mais qui est surtout un chercheur en matière de langage, puisque ça fait partie de ses activités professionnelles, et il admettra avec moi que le mot commando est un mot à forte connotation péjorative, en tout cas dans ce domaine. Un commando, c'est forcément un rassemblement de personnes armées, entraînées, formées à des actes de violence et agissant en préparation de violence. Est-ce que ça vous paraît une bonne définition?
Oui, on a parlé de commandos aussi dans les camps. Et là, il ne s'agissait pas, malheureusement, de gens qui s'occupaient de choses violentes. Alors, si ce n'est qu'elles étaient violentes pour elles.
C'est ça.
Mais c'est vrai que normalement, l'acceptation normale du mot commando, oui, suppose au moins un caractère militaire et fortement organisé dans un but non pacifique.
Et là, on voit bien la manipulation du langage, puisque commando, c'est un mot très précis, très fortement connoté, comme on dit maintenant. En revanche, IVG, ça ne veut rien dire. C'est comme TGV, c'est comme VGE, CSG, PDG, tout ça, ce sont des sigles qui sont, du fait même que ce sont des sigles, privé de tout sens, privé de toute chair, de toute viande. Et évidemment, IVG, qui veut dire interruption volontaire de grossesse, c'est beaucoup moins lourd sémantiquement que avortement.
Je crois que les questions de langage sont en effet très très importantes. Voilà. Et c'est cette terminologie, commando anti-IVG, ce n'est pas la première fois qu'on l'entend ou qu'on la lit, on la retrouve assez souvent en effet.
C'est une terminologie qui a été en quelque sorte érigée officiellement par l'AFP. Et maintenant qui est reprise par le monde. Donc ce groupe de sauveteurs se transforme en commando IVG dans le monde. Mais il y a beaucoup plus vicieux. C'est que ce journal, étant en présence d'un événement aussi considérable que celui de la participation d'un prélat de l'Église catholique à une opération de sauvetage, ne peut pas dire la vérité. Il est obligé de la déguiser. Car autrement, ça risquerait d'attirer l'attention de ses lecteurs qui ne sont pas encore tous complètement abrutis et qui se diraient, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, l'Église catholique s'y met, l'Église catholique, par ses prélats, par ses chefs, s'intéresse à ces questions et ça devient quelque chose d'important. Tandis que le monde, qui sait ça, ne veut pas que ça se passe comme ça, alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils appellent l'abbé, le père abbé du Barreau, dont Gérard Calvet, comme si c'était Milou les Belles Pognes, Alfredo les Bretelles, Gérard Calvet, ou Tartempion du Molard, un quidam. Or, ça n'est pas un quidam, c'est un prélat de l'Église de France. Là, il s'agit d'une manipulation. Mais où on arrive au mensonge, c'est quand le monde ajoute que Gérard Calvet est dans la mouvance intégriste proche du Front National et du quotidien présent. Alors, pourquoi c'est un mensonge? D'abord parce que Il se trouve que Don Gérard n'est pas dans la mouvance intégriste. C'est un prêtre traditionnaliste qui est d'ailleurs souvent rejeté par les catholiques intégristes, en tout cas par les catholiques qui se réclament de Mgr Lefebvre, ce que personnellement, je l'ai dit mille fois à cette antenne, je trouve fort dommage. Mais enfin, c'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, on peut pas raisonnablement tenir Don Gérard pour un intégriste au sens que le monde donne à ce terme. Et d'autre part, proche du Front National et du Quotidien Présent, étant donné que le Quotidien Présent est un quotidien catholique, on voit mal comment un évêque normalement constitué, un prélat normal, pourrait être éloigné du Quotidien Présent. Parce que ça paraît un petit peu compliqué. Quant à proche du Front National, c'est une assertion purement gratuite. J'attends que les rédacteurs, enquêteurs de l'Immonde nous produisent des documents écrits d'où il ressort que Don Gérard a pris des positions politiques faisant de lui un supporter du Front National d'une façon directe ou indirecte. Et quand bien même, d'ailleurs, on voit pas au nom de quoi un évêque ou un prélat ou un prêtre s'interdirait d'être, ouvrez les guillemets, proche du Front National, fermez les guillemets, quand on a vu, lors de récentes élections, des curés se présenter sur les listes du Parti communiste. Parce que si les prêtres n'ont pas le droit de participer à la vie politique de leur pays, ça c'est une décision qu'il faudrait annoncer officiellement, et il faudrait encore qu'elle s'applique à tous et à tous les engagements politiques. Mais au fond, c'est pas tellement non plus la question. La question, c'est que cette affaire, qui est une affaire grave et importante, a été à peu près totalement occultée par les médias, et que les médias qui ne l'ont pas occultée l'ont voilée par le mensonge et la désinformation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout le temps comme ça. Ce que je voudrais faire passer par cette émission, je le dis souvent, c'est une espèce d'entraînement au discernement des esprits dans la lecture de la presse et dans l'audition des radios et télévisions. Il faut que vous preniez comme principe que tout ce qu'on vous dit est susceptible d'être un mensonge, et probablement un mensonge. Tout ce que vous lisez, tout ce que vous entendez, est probablement un mensonge, mensonge volontaire ou involontaire, mensonge par déformation, par ajout, par omission, par suppression, par toutes les techniques possibles et imaginables du mensonge. Et ensuite, il faut appliquer son intelligence à la compréhension des choses. Je crois que là, le monde nous donne un très bon exemple de la façon dont le système ment. Voilà, j'étais un peu long sur cette question, mais je crois qu'elle est très très importante. Et en plus, je crois qu'il est maintenant important de dire que, comme le dit Jean Madiran dans le numéro de Présent que vous trouvez cet après-midi et que vous trouverez demain matin en kiosque, la France attend des évêques. Car l'affaire Don Gérard pose un autre problème. C'est qu'à ce jour, en dehors de l'appui apporté du bout des lèvres, il faut le dire, par Mgr de Courtrai au sauveteur, les évêques de France gardent sur l'affaire de l'avortement un silence général qui relève purement et simplement de la complicité. Alors maintenant, un de leurs pères, puisqu'il s'agit de Don Gérard qui est prélat, a été mis en état d'arrestation, il a passé une nuit au cachot avant d'être présenté au procureur de la République hier après-midi et d'être remis en liberté après 2 heures d'interrogatoire. Un prélat est allé au bout de ce qu'on attend d'un prêtre. C'est-à-dire qu'il s'est engagé personnellement dans le combat pour le sauvetage des enfants et des bébés. Et je crois que maintenant, il faut que d'autres évêques s'y mettent. Comme le dit Jean Madiran, la France attend des évêques, Et malheureusement, je crains fort que ça ne soit pas seulement dans le domaine de la lutte contre l'avortement. On me dit que une association Défense pour la vie aurait empêché la tenue d'une conférence du professeur Beaulieu aujourd'hui. Je signale que je rappelle que le professeur Beaulieu est l'inventeur de la pilule RU 486, c'est ça, je connais jamais le nom, moi.
666.
Le numéro, non. Oui, ça devrait être RU 666. En tout cas, de cette pilule qui est un poison, un pesticide humain, comme le disait le professeur Lejeune, et dont il est, le professeur Beaulieu, tellement fier qu'il a accepté d'abandonner, et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, d'abandonner les royalties auxquelles il avait droit pour que cette pilule puisse être vendue moins cher et pour qu'elle soit commercialisée aux États-Unis. Donc c'est une pilule de mort dont l'inventeur a préféré abandonner ses droits financiers plutôt que de la voir ne pas se répandre dans le monde entier. Pour ceux qui croient au signe, et en plus ce professeur s'appelle Beaulieu, c'est presque trop beau, ça n'est pas un petit signe. Alors, à côté de ça, il y a vraiment des choses importantes aussi dans l'actualité. Il y a par exemple le fait que maintenant 18 ou 19 jeunes filles voilées, islamistes, musulmanes, ont été exclues de lycée. Alors, je ne vais pas revenir sur cette question, sur la question de faut-il, faut-il pas, tout ça. Mais je voudrais simplement attirer votre attention sur quelque chose. Encore une fois, sur un mensonge refermé sur lui-même. C'est que, dans cette affaire, on nous dit que c'est au nom, c'est pas du tout par anti-islamisme qu'on s'oppose au voile, c'est parce que le voile est une façon de marquer la servitude de la femme dans l'islam, et que par conséquent, il n'est pas acceptable que, en France, pays de l'égalité des sexes, mon œil, et des droits de l'homme, mon autre œil, il n'est pas acceptable que des petites filles soient soumises à ce signe extérieur de servitude. Moyennant quoi, qu'est-ce qu'on fait? On exclut les petites filles du lycée. C'est un système constant chez nous, en France. On punit les victimes. Car, il faut être clair, si ces petites filles se voient forcées à porter le tchador par d'abominables barbus qui croient que l'homme est supérieur à la femme, elles sont victimes d'un sexisme intolérable. Et comme on n'a pas le courage de punir ceux qui leur imposent cette servitude, parce que eux sont réellement dangereux, eh bien, on punit les petites filles en leur interdisant de venir au lycée.
Elles sont pas victimes. La provocation. Elles font de la provocation.
La question n'est pas là du tout. Je ne dis pas si elles sont victimes ou pas victimes.
C'est les autres qui disent que c'est des victimes.
Je me fous absolument de savoir si ce sont des victimes. Je dis simplement que les laïcars nous expliquent que le tchador est intolérable parce que c'est un signe extérieur de servitude. Moyennant quoi, on punit celles qui sont obligées de porter ce signe extérieur de servitude. Donc je dois dire que le problème du foulard me paraît d'une telle sottise que je veux même pas en parler, mais je dis simplement que là on a la démonstration que ces gens-là, que cette gauche laïque, libérale, quels que soient les noms dont elle se pare, est une gauche menteuse, c'est une gauche crapularde. Et c'est une gauche qui englobe aussi une bonne partie de la droite, d'ailleurs, à commencer par Bérou et compagnie. Ce sont des gens qui sont des menteurs, puisqu'ils vous disent, des menteurs et des menteurs inconséquents, puisqu'ils vous disent, le seul moyen de régler ce problème, de rendre en quelque sorte la dignité aux femmes réduites en servitude par le port du tchador, c'est de les chasser de notre société. Moi, je trouve ça absolument indéfendable. Voilà. Un mot plus joyeux quand même, vite pour évoquer, puis après on parlera avec Michel Blanza de l'actualité du langage. un mot pour évoquer le dîner du Libre Journal qui a eu lieu vendredi dernier à bord du Zouave, sur la Seine, pour dire que on était 231, c'est-à-dire, il faut pas le répéter à la police, mais trois personnes de plus que le maximum autorisé, parce qu'il y avait trois personnes qui s'étaient cachées avant l'embarquement.
Passagers clandestins.
Passagers clandestins. Que ça a été une réussite, je crois, magnifique. Tout le monde était enchanté. Que on a été obligé de refuser plusieurs personnes, parce que ce qui est typique aussi dans notre société, qui est quand même restée très gauloise, c'est que on a beau dire qu'il faut s'inscrire à l'avance, on a beau dire tout ce qu'on veut, eh bien il y a toujours des gros malins pour arriver au dernier moment en disant « Oh ben il doit bien vous rester une place ou deux », ce qui n'était pas le cas évidemment. Je dis ça à propos du dîner du 7 novembre. Parce que tous les ans, au dîner de Radio Courtoisie, il y a de charmants auditeurs qui arrivent à la dernière minute en disant « j'ai pas eu le temps de m'inscrire, j'ai pas pensé à m'inscrire, mais j'arrive maintenant avec mes 280 francs, ou je sais pas quel est le prix d'ailleurs, j'ai pas ça en tête, avec mes sous, et je veux m'inscrire et je veux entrer ». Or, il faut quand même savoir que ce genre de choses se prépare longtemps à l'avance et que quand on est équipé pour recevoir 250 personnes, on n'est pas forcément équipé pour recevoir 300. Et quand on est équipé pour en recevoir 1000, on ne peut pas forcément en recevoir 1200. Et donc, pour vous dire, vraiment, ne croyez pas que si on vous refuse l'accès, l'entrée au dîner, c'est par méchanceté, par vilainie, par mauvais caractère, c'est tout simplement parce que c'est une impossibilité. Donc en dehors de cette chose un peu gênante, on a été obligé de refuser du monde, ça a été une réussite parfaite, on a été accueilli, ou plutôt salué par Jean-Marie Le Pen au début du dîner, et par Roger Olyndre à la fin du dîner. Il y a à peu près 200 personnes qui m'ont demandé où était Victoria.
Dans son lit.
Oui, c'est malin. Vous auriez mieux être...
Elle a une petite santé, la pauvre
Victoria.
Vous auriez
mieux fait d'être dans le lit de la Seine, à bord d'un navire. Et si Dieu le veut, nous recommencerons l'année prochaine avec un bateau plus grand pour pouvoir recevoir au moins 500 personnes. Des
Attention,
questions
nous allons
Des commentaires
chavirer. Des commentaires. Il y a une question, une question tout à fait pratique, c'est après l'intervention de Jean-Marie Le Pen, qu'avez-vous passé sur l'antenne? C'était le début du Requiem de Cimarosa.
Cimarosa, oui, exactement.
Et on nous signale que l'évêque de Tours, Monseigneur
Honoré,
avait témoigné dans un procès pour soutenir ceux qui luttent contre l'avortement. C'était au mois de novembre 1993.
Oui, il avait fait comme Monseigneur de Courtrai, mais ce sont toujours des témoignages qui sont accompagnés de telles réserves. C'est-à-dire que ce sont des témoignages qui disent, on comprend, alors qu'on se fout qu'ils comprennent, c'est pas le problème, on comprend le désarroi des fidèles devant l'avortement, mais bien entendu, on réprouve la méthode. Or, c'est pas ça qu'on attend des évêques. On attend qu'ils participent efficacement, personnellement, à la lutte contre l'avortement, parce qu'en disant on réprouve la méthode, ben tout simplement il donne raison aux avorteurs qui disent ce sont les méthodes de commando, ce sont des méthodes fascistes. À partir du moment où les évêques réprouvent, on n'a pas besoin de leur soutien. Je crois que ce que les sauveteurs attendent, ça n'est pas un soutien réprobateur, c'est un soutien authentique, comme celui que leur a apporté Don Gérard.
Une auditrice vous demande, est-il exact que Mgr Lustiger fait partie du comité d'éthique qui décide du droit de vie et de mort des enfants?
Je ne le sais pas, mais peut-être que des auditeurs qui le savent pourront nous répondre. Il me paraîtrait normal qu'un évêque français appartienne au comité d'éthique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'évêque ou de prêtre ou de théologien catholique dans le comité d'éthique en France, ça veut dire que la situation est encore plus grave que l'on ne pourrait le craindre.
Il y a une déclaration de votre ami Sanders. Oui. Je t'écoute, je t'aime.
Ah bah c'est gentil, oui.
Tu as absolument raison, ces petites filles sont des victimes.
Oh, oh, oh. Voilà, je suis très surpris de découvrir qu'Alain Sanders est d'accord avec moi. Je veux dire que je n'en reviens pas.
Moi je sais pas s'il les a écoutées les victimes à la télé, mais en tous les cas, elles étaient bien remontées. Hein,
mais évidemment, elles sont manipulées. Enfin, elles sont manipulées. Comment une femme aussi intelligente que vous peut-elle ne pas comprendre que tout ça est une énorme manipulation, et en plus une manipulation qui vise à une manipulation qui a l'appui des autorités en France, c'est-à-dire des autorités morales, médiatiques et politiques, puisqu'elle détourne l'attention. Le problème en France aujourd'hui, je le répète, je le dirai jusqu'à mon dernier souffle, n'est pas le problème islamiste. Il n'y a pas de problème islamiste en France. Il y a un problème qui est lié à la quantité de l'immigration. Et je suis désolé de dire que jusqu'à présent, enfin je suis pas désolé de le dire, mais je suis obligé quand j'ouvre les yeux de constater que dans le métro, c'est pas les petites filles en tchador qui font régner la terreur à partir de 20h. Et dans la rue, moi j'habite dans le 19e arrondissement, où il y a au moins 4 marchés de la drogue, ouvert à ciel ouvert et en plein vent, malgré le combat, je dois dire...
Des riverains ?
Non, pas seulement des riverains, mais des policiers qui font un travail... Dieu sait que je dis pas souvent du bien des policiers, mais je les vois travailler dans le quartier, c'est remarquable. Vraiment, ils sont présents, etc. Mais malgré ça, il y a des marchés de la drogue. J'ai beau regarder quand je passe, je n'ai jamais vu de barbu islamiste se trimballant avec son tapis de prière sous le bras gauche et son petit sac à main plein de drogue sous le bras droit. Donc ça n'est pas le problème à l'heure actuelle en France, n'est pas le problème de l'islamisme. Qui y est des islamistes en France, c'est indiscutable. Qui soit probablement lié à certaines mouvances terroristes qui opèrent en Algérie, c'est très probable. Mais je note une chose, c'est que Monsieur Pasqua, qui depuis des mois a déclaré la guerre à l'islam en France, à l'islam fanatique en France, tout ce qu'il a pu obtenir comme résultat, c'est d'arrêter 23 clampins, dont pas un seul n'a été un culpable de quoi que ce soit. Il s'est contenté de les expulser sans motif avéré, au nom de l'ordre public. Hein. Et moi, je crois que si j'étais ministre de l'Intérieur et qu'on me donne 6 mois pour trouver des coupables, dans quelque milieu que ce soit, y compris dans les couvents de bénédictines, j'arriverais à arrêter plus de 23 personnes. Donc vraiment, c'est que ces gens-là, pour l'instant, on n'a rien contre eux, il faut bien le reconnaître. Et donc, il faut arrêter de se laisser détourner l'attention, car quand on vous montre du doigt les islamistes, vous savez quel est le calcul ? On vous dit les Français sont racistes. Et ces gens-là croient vraiment que les Français sont racistes. Les autorités morales croient vraiment que nous sommes des racistes. Alors ils disent, puisqu'ils sont des racistes, on va leur donner un moyen, on va leur donner une poire pour leur racisme. On va leur donner un dérivatif. Vous voulez pas aimer les bougnoules ? Eh bien, détestez donc les islamistes. Et comme ça, avec les autres, vous vous poserez pas de questions. C'est exactement ça ce qu'on fait. Et je dis qu'on n'a pas le droit, au nom de l'intelligence et du bon sens, de se laisser avoir par ce discours qui est un discours de mensonge.
Je cherche mon bulletin. Il a été distribué, alors c'est à propos de l'avortement, il a été distribué dans les centres d'enseignement supérieur des Hauts-de-Seine, le guide des petits débrouillards. Au chapitre santé, on explique aux étudiantes qui seraient enceintes les différentes possibilités qui s'offrent à elles, et bien entendu l'avortement. Quant au professeur Lejeune, il contestait le terme IVG appliqué à l'avortement, car l'avortement n'est pas une interruption de grossesse qui pourrait reprendre, mais une cessation définitive.
Oui. Tout à fait, c'est l'évidence. Mais là encore, voilà toujours ce problème, enfin cette question de l'adéquation du langage, de la manipulation du langage, de la déformation du langage, de la transformation du langage, et de la manipulation par le langage. Et à propos, pour revenir à la question du voile, voilà ce que je lis dans Le Monde de ce soir. Modifiant radicalement sa position, SOS Racisme réclame une loi interdisant tous les signes religieux à l'école. Et SOS Racisme dit, SOS Racisme, vous savez, c'est cette organisation qui a été fondée par Monsieur Harlem Désir, et qui est ancien trotskiste, et qui est aujourd'hui dirigée par Monsieur Fodécila. Eh bien, SOS Racisme réclame... Alors attendez, je cherche la phrase exacte, parce que, voilà. Monsieur Silla explique, estime donc que la que cette circulaire discriminatoire, celle de Bérou, qui ne désigne que le foulard, et risque de faire des éléments les plus radicalisés les porte-parole de la communauté musulmane, jusqu'à là il n'a pas tort. Alors il dit comment résoudre ce problème. Au début, SOS Racisme disait, eh ben, la façon de le résoudre, c'est tout simplement de laisser les gamines porter leur foulard si ça les amuse. Et puis maintenant il dit exactement le contraire, il dit non, 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 alors il faut interdire tous les signes religieux, le foulard, la croix et la kippa. Tel est en effet, dit Le Monde, la ligne défendue désormais par Julien Drey, père fondateur tutélaire de SOS et député PS de l'Essonne. Alors, on est là au cœur du problème. Il ne s'agit pas du tout de lutter contre l'islamisme, dont ces gens-là se foutent comme de leur première chemise.
Il s'agit de lutter contre le folklore.
Ah ben bravo, bravo, pour les porteurs de croix, c'est bien. C'est pas du tout du folklore.
Mais non. Moi, je parle sur les... Oh,
mais enfin,
les foulards, mais les croix. Il y a des petites qui ont des croix, croix.
Eh bien, et oui, vous dites ça.
Il y a des petites qui ont des croix juives.
Oui,
il y a
des croix juives.
C'est pas des croix juives.
Des croix juives. Ça, c'est une nouveauté, ça vient de sortir.
Je cherche ouais. Le nom et je ne trouve pas. Ouais. Mais des étoiles à six branches. Bon, c'est ça, oui, je me trompe pas sur le nombre de branches encore.
Ça s'appelle du Magen David.
Ah ben oui, mais ça, je ne sais pas. Ben je ne connais pas
les
noms
techniques. N'en parlez pas si vous ne savez pas comment
ça s'appelle. Mais j'en ai vu, sans savoir comment ça s'appelait. Ça ne dérange personne. Le voile, c'est autre chose. Je vois encore
une fois. C'est terrible avec...
Obsédé par ce truc. L'idée que je pouvais avoir six gamines voilées comme ça dans ma classe, j'en ai des démangeaisons partout.
Oui, mais c'est idiot. C'est une attitude idiote. Je suis désolé de vous le dire.
D'ailleurs, moi, je suis pour l'uniforme.
Le problème n'est pas de savoir ce qu'on pense ou ce qu'on pense pas de cette situation. Encore une fois, il est de savoir...
Il est intolérable.
Mais non, enfin écoutez, c'est quand même extraordinaire.
Il avait la blouse autrefois.
Il est de savoir ce que disent les autres. Et Monsieur Drey utilise l'affaire des foulards pour imposer son terrorisme laïque en disant pas de kippa, pas de foulard, pas de croix.
Mais de toute façon, il y a longtemps que les croix, on les a enlevées. Hein?
Bon, allez, on arrête parce que je sens que je vais bouillonner. Et c'est pas absolument utile. Est-ce que je parle de Monsieur de Villiers? Peut-être pas, c'est pas
vraiment... Si vous
vraiment
avez envie de bouillonner, c'est le
indispensable.
Moment. Allons, parlez-nous de Monsieur de Villiers.
Non, je crois pas. Non, je voudrais simplement dire que c'est assez désespérant. Moi, je suis toujours surpris par la lâcheté. Parce que, surtout la lâcheté des gens qui montent au filet. C'est pas personne n'est allé chercher Monsieur de Villiers. Personne lui a demandé de faire de la politique, après tout, il pouvait très bien rester dans son coin, être président du conseil de Vendée, du conseil régional de Vendée, et tout le monde aurait été content, à commencer par lui. Il a voulu devenir un personnage public national. Et bien évidemment, en raison des idées qu'il défendait, il était à peu près certain, ça n'importe qui l'aurait pu le prévenir, à commencer par moi, et puis à suivre par bien d'autres, qu'il allait avoir de gros ennuis. Et ça n'a pas raté. Évidemment, comme il est pour la tradition, pour la patrie, pour la défense des intérêts français, pour la défense des paysans, etc., etc., on a dit bah, il est donc d'extrême droite. Et par conséquent, il est, comme Le Pen, il est raciste, antisémite et xénophobe. Et alors ça lui a été jeté à la figure par la presse écrite d'abord, et puis dimanche par l'émission L'Heure de Vérité, où véritablement on a vu qu'il était totalement déstabilisé par le fait que c'était ceux qu'il devait considérer comme des amis, ou des complices, ou des copains, ou des connivants, c'est-à-dire Madame Catherine Ney et Monsieur Alain Duhamel, qui lui ont jeté ça au visage. Il était quand même un petit peu abasourdi. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Au lieu de répondre, ben non, pas du tout, je suis pas raciste, parce que la France n'est pas raciste, et que je suis français, et qu'il n'y a pas de racisme en France. C'est évident, il n'y a qu'à regarder d'ailleurs dans le métro pour voir que la France n'est pas raciste, parce que vraiment, si elle était raciste, je pense pas que le métro aurait l'allure qu'il a. Je suis pas antisémite, parce que je pense pas que la France soit antisémite. Sans ça, je vois pas pourquoi c'est un pays où il y aurait, à l'heure actuelle, 1 million de victimes potentielles de l'antisémitisme. ce qui est tout à fait déraisonnable. Et je ne pense pas que la France soit un pays xénophobe, puisque c'est un pays qui accueille depuis des milliers d'années, en tout cas des centaines d'années, les étrangers, et qui arrive à les intégrer. Au lieu de répondre ça, il a dit « Non, non, c'est pas moi qui suis raciste, xénophobe et antisémite, c'est Le Pen ». Autrement dit, il a fait comme, ce que j'écris dans mon papier du Libre Journal, il a fait comme ces chiens, vous savez, les chiens de meute, quand ils reçoivent des coups de fouet des piqueurs, ils mordent leurs voisins de meute. Et c'est ça qu'il a fait. Au lieu de mordre le piqueur qu'il fouettait, il est allé mordre le chien d'à côté. Bon, et en réalité, c'est tout simplement par pétoche, parce qu'il n'a pas encore l'habitude de se battre contre l'ennemi, et il est terrorisé par la violence du combat. Il ne s'attendait pas à ça. À mon avis, d'ailleurs, il n'a encore rien vu. Parce que, pour l'instant, le débat en ce qui le concerne reste à peu près sur le plan des idées. C'est-à-dire qu'on se contente de dire qu'il est raciste, qu'il est pétainiste, qu'il est fasciste ou fascisant. Mais attendez un petit peu, et je vous promets que dans les semaines qui vont venir, vous allez voir sortir des papiers qui évoqueront très exactement certains papiers qui ont été faits sur Le Pen, sur la famille Le Pen, il y a quelques années. Parce que c'est la méthode de l'ennemi qui consiste à briser un homme par ces moyens-là. Ce que je vois, c'est que l'attitude aujourd'hui de Philippe de Villiers permet de penser qu'il ne résistera pas aux attaques personnelles quand le moment sera venu des attaques personnelles. Il n'aura pas la moelle, il n'aura pas le dos, si j'ose dire, de Le Pen, qui a résisté à des abominations effroyables, lui tiendra pas le coup. Et je pense qu'il commence déjà à ne plus tenir le coup, puisqu'il vient de démissionner de son mandat de parlementaire français. Alors il avait trois mandats qui étaient incompatibles à trois, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il en abandonne un. Il était parlementaire européen, parlementaire français et président du conseil régional de Vendée. Il a abandonné le mandat de parlementaire français. Or, il pouvait évidemment pas abandonner le mandat de conseiller, de président du conseil régional de Vendée, parce que c'est sa base, c'est toute sa puissance politique qui est là, c'est tout son passé politique, et c'est probablement d'ailleurs tout son avenir politique. Mais tout le monde pouvait s'attendre à ce qu'il rompe, à ce qu'il abandonne son mandat européen, puisqu'il est, il a dit lui-même plusieurs fois que l'Europe ne représentait rien, qu'on ne pouvait rien faire au Parlement, que les parlementaires européens n'avaient aucun pouvoir face à la Commission et face aux fonctionnaires, et que par conséquent, c'était juste une espèce de représentation, comment dirais-je, symbolique que sa présence dans le combat européen. Or, il a abandonné son mandat national français. Et moi, je crois qu'il a fait ça parce qu'il a peur. Je crois qu'il a fait ça parce qu'il se dit que, au moins quand il sera à Strasbourg et à Bruxelles, il ne sera pas à Paris, et qu'on l'oubliera peut-être un peu. Et je dois dire que moi, j'avais pas du tout d'hostilité pour De Villiers. J'en ai toujours pas, d'ailleurs. Je suis un petit peu navré de voir que cet homme, qui est pas nul, s'est comporté de cette façon lamentable. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je me suis pas fâché.
Seriez-vous un peu naïf, cher Serge ?
Moi, je suis d'une candeur de lin. Oui, de lin, voilà.
Probité candide et lin blanc.
Voilà. Un sauveteur téléphone en disant « Monsieur le cardinal de Courtrai a fait une proclamation de soutien des opérations de sauvetage sans aucune ambiguïté, durcissant même la lettre qu'il lui avait été proposé d'écrire. » Eh bien alors, donc j'en ai menti. J'avais cru me souvenir que le cardinal de Courtrai avait montré une certaine tiédeur dans son soutien au sauveteur. Non, un sauveteur qui doit savoir beaucoup mieux que moi de quoi il s'agit, dit pas du tout. Il a fait une lettre sans ambiguïté, une lettre dure. Eh bien, je demande pardon à nos auditeurs de l'erreur que j'ai commise.
Et au man de Monseigneur de Courtrai.
Oh, ça, je pense qu'il s'en tamponne joyeusement le coquillard, Monseigneur de Courtrai, de ce que je peux dire de lui aujourd'hui.
Et un membre de mon fan club dit qu'il devait assister au dîner de Serge, mais malheureusement, il était malade ce soir-là. Toutefois, il n'est pas entièrement déçu car il a appris que Victoria n'y assistait pas non plus. Voilà. Merci,
vos petits,
monsieur.
Vos petits flirts téléphoniques, ma pauvre Victoria.
Tiens, puis aussi, on me donne des calculs. 486, cela donne 4 plus 8 égale 12. 12 divisé par 2 égale 6. On retombe sur 666.
Oui,
il y a des maniaques
peu. Oui, oui. Non, mais avec les chiffres, on peut faire absolument n'importe quoi. Monsieur Blanzin, on peut faire aussi n'importe quoi avec les mots.
Avec les mots, tout à fait. Oui.
Alors, je voudrais que vous nous livriez...
Oui, je vais me permettre juste de réagir un tout petit peu à ce que vous avez dit précédemment.
J'attendais que vous fissiez, si j'ose.
Oui, ben, très bien. Ça m'a rappelé une chose importante qu'avait dit Milan Kundera il y a quelques années, ce que vous disiez à propos du langage. Il s'était battu, au moment où l'Europe de l'Est était dite Europe de l'Est, chez nous, et appelé Europe centrale dans les pays soumis à l'occupant soviétique. Et il insistait sur l'importance considérable du vocabulaire. Et je crois en effet tout l'intérêt de ce que vous dites, et aussi ce que je souhaite aussi, en amenant justement des petites phrases amusantes collectées dans la presse, c'est montrer que soit ce qui est dit ne veut rien dire, parce que ça n'a pas d'importance, ce qui importe, ce n'est pas ce qui est dit, mais c'est d'occuper le terrain, soit c'est en effet falsifié ou présenté de manière pas honnête. Et le problème, en effet, est de faire très attention aux mots, à ce qu'ils veulent dire, aux notions qu'ils accompagnent. Et je voulais simplement dire, je suis tout à fait d'accord, au moins sur l'idée des présentations abusives par l'ensemble des personnes. Mais mon angle à moi est un angle plutôt humoristique. Il y a suffisamment de choses amusantes dans la presse qui montrent que tous ces gens-là ne savent même pas s'exprimer.
Oui, alors il y a une espèce de paradoxe d'ailleurs dans le fait que à la fois sont des manipulateurs de langage, mais des mauvais manipulateurs, ce sont des prestidigitateurs ratés quoi.
Qu'il y avait, très souvent, oui.
Il y avait un admirable numéro de prestidigitation avec une espèce d'anglais alcoolique.
Mais ça permettait de démonter les numéros pour montrer justement les trucs en ne les expliquant pas.
Voilà.
Là, il ne s'agit pas de fausses maladresses, mais de véritables maladresses dans certains cas. Parce que ce qui compte, 9 fois sur 10, c'est vraiment de tenir le crachoir, tout simplement. Et l'intérêt d'une radio comme Radio Courtoisie, au milieu de nombreuses autres radios qui diffusent à peu près toute la même chose, et en tout cas le même message idéologique, est simplement de dire, même si vous ne pensez pas comme nous, enfin moi c'est comme ça que je le comprends, faites au moins attention aux mots, et à partir de là, peut-être arrivera-t-on à s'entendre, à partir du moment où on parle des mêmes choses.
Oui, d'ailleurs, c'est vrai que un des gros problèmes auxquels on est confronté, même dans les débats, les querelles politiques ou les affrontements politiques ou autres, c'est que la plupart du temps, on n'est pas d'accord sur le sens des mots. C'est-à-dire qu'on les deux parties emploient le même mot, mais en ne lui donnant pas le même sens.
Alors, ce n'est pas de la pure et simple mauvaise foi qui est l'habitude des trotskistes dans les associations de précipiter des combats secondaires qui empêchent le véritable débat d'avoir lieu, par exemple. C'est assez fréquemment utilisé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure à propos du voile. Je suis d'accord là-dessus. Ça peut en effet provoquer des réactions épidermiques, surtout pour ceux qui le portent. Ça dépend de la qualité du voile.
Oui, ça dépend de la qualité du tissu, c'est ça.
L'intérêt, c'est en effet de provoquer des débats secondaires qui permettent d'évacuer le débat principal. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il y a des auteurs, des grands auteurs, qui ont bien dit tout ça. Milan Kundera, je trouvais très intéressant à relire pour ça, par exemple.
Ou à lire.
Est intéressant à lire.
Quelle moisson...
Et même à écouter.
Vous... Quelle moisson de coxigrue
Je peux déjà vous en livrer une dans le métro. Dans les quêteurs du métro du soir, il y en est un qui rate son coup parce qu'il attaque son petit couplet par « je veux pas vous infortuner ». Ce qui me fait beaucoup rire. C'est très joli. Moi, je trouve ça tout à fait ravissant. Il veut pas pousser les gens dans la situation à laquelle il est.
Voilà, c'est ça.
Je crois que vous avez bien aimé Denis Jambard une fois précédente.
Oui, mais j'aime bien Denis Jambard avait quand même, il faut rappeler sa phrase précédente qui était...
Ah, vous
non, mais je crois l'avoir de mémoire. Oui. Mitterrand descendait l'escalier du futur en tenant tentant d'une main de reconstituer le puzzle de son passé et en se tenant de l'autre à la rampe.
C'est à peu
présent,
près ça. En tout cas, cette semaine, il parle, lui, de, toujours à propos de Mitterrand, de touiller les divisions de droite en multipliant les gestes vers Chirac sous le regard de Balladur. Il touille en multipliant les gestes.
Bah, il va éclabousser la cuisine, forcément.
Le point est un journal à conseiller, déjà parce qu'il y a Bernard-Henri Lévy, qui est vraiment un auteur fantastique. Il faut le savoir. Et puis ils s'y mettent tous. Madame Catherine Pégard, qui est, je crois, une des nouvelles étoiles du Point, parle cette semaine toujours des antipodes de l'échiquier politique.
Ah,
je trouvais que c'était une notion intéressante.
La formule est heureuse. Les antipodes d'un échiquier.
Et alors BHL, moi je suis ces pérégrinations partout où je peux. Je ne suis pas encore assisté à ces meetings, mais ça ne saurait tarder. Il est en train de réviser Poussin, parce que c'est quelqu'un qui révise régulièrement quand il y a une grande exposition. Alors là, il s'occupe de Poussin.
C'est son côté scolaire.
C'est son côté scolaire. Il n'a jamais dépassé
Il n'est pas révisionniste pour autant.
Non, il révise, simplement. J'avais pu apprendre lors d'une précédente chronique dans Le Point qu'il avait sa lecture de la semaine. Donc, c'est un grand intellectuel. Il lit un livre par semaine,
au moins.
Peut-être un livre. C'était Jean Daniel à ce moment-là.
Ah oui.
Jean Daniel, pendant ce temps-là, devait lire BHL, je pense. Comme ça, ça ne
se... Ils se prêtent leurs livres, je suppose.
Ils se prêtent leurs livres, voilà. Mais ils sont tous amusants et ils sont, en général, ils sont très très fiers de leurs bêtises. L'événement du jeudi de cette semaine, lui, parle du vieux mépris des durgaulistes, par rapport aux libéraux. Pour les mous démocrates chrétiens, se greffe sur l'ambiance poisseuse des affaires.
Surtout pour un vieux mépris.
J'ai du mal à retrouver, oui, pour un vieux mépris.
Un vieux mépris qui se greffe sur l'ambiance poisseuse.
Et c'est en titre. C'est en titre dans l'événement du jeudi. Donc ça permet au moins de remarquer que le langage est utilisé pour... En fin de compte, pour rien. Ils sont très souvent dans les articles, quand vous avez article écrit corruption, en gros, vous allez tout savoir sur la corruption, enfin. Ça fait longtemps qu'on souhaite tout savoir dessus.
Je voudrais bien savoir d'ailleurs comment on peut se faire corrompre, moi, pour une fois.
Moi, j'essaye désespérément et je n'y arrive pas. Dans le métro,
on n'intéresse vraiment personne.
Je n'arrive pas à me faire corrompre. Et, quoique, enfin, je décline. Je le sens bien. Et c'est une forme de corruption. Et ce que je voulais dire simplement, c'est que le langage... Oui, je décline aussi toute proposition, bien entendu. Et le langage, parfois, peut être utilisé dans un journal pour occuper 15 colonnes ou 30 colonnes, je ne sais pas, pour simplement ne rien dire. En ayant un effet d'annonce très important en couverture, je crois que l'événement du jeudi a beaucoup utilisé la méthode, par exemple. Je crois qu'on peut dire ça...
Oui, c'est pas un reproche que je ferais aux journaux, après tout.
De ne rien dire?
Non, plutôt que de mentir.
Vous trouvez que le silence est grand?
Oui.
Mais ce silence est plein de bavardage. Et c'est un peu fatigant, surtout quand vous allumez une radio, une télévision, c'est le même bavardage, dont les ministres disent tout le temps que c'est un silence assourdissant. Ils sont toujours assourdis par les silences.
Oui,
je ne sais pas si vous avez remarqué.
Oui. Alors, est-ce que vous avez d'autres
découvertes? Moi, ce qui m'attire en ce moment, c'est de voir que nos ministres persécutés, Noirs, Carignon, sont persécutés à cause de leur goût pour la culture, parce que l'un voulait prendre des leçons de violoncelle, l'autre des leçons d'anglais.
Oui, c'est vrai, on a remarqué ça.
Bon, moi, je trouve ça amusant.
Oui.
C'est, en fin de compte, des martyrs de la culture.
Oui, ce que j'aime bien aussi, c'est cette inquiétude devant le gouvernement des juges.
Oui, c'est redoutable. Oui,
montre que
gouverné par un juge.
En fait, ces gens-là préfèrent que la France soit gouvernée par des voleurs que par des magistrats. On les comprend d'ailleurs. Bah, évidemment, chacun choisit sa propre catégorie.
Oui,
ça c'est sûr.
Alors, toute la presse est ainsi faite qu'on n'y comprend rien, c'est dit n'importe comment. J'ai pris comme exemple, pour cette fois-ci, Femme. femme du mois de septembre 94, je sais pas encore celui d'octobre, et il y a un article de Michel Cotta sur Jacques Delors. Alors cet article sur est un tissu d'ânerie, évidemment. Et c'est là aussi, il s'agit simplement d'occuper le terrain, sans dire quelque chose de précis. Mais ce qu'elle annonce, c'est que il est. Alors j'essaie de retrouver en même temps la. Et c'est là où je ne suis pas bien préparé, c'est que je n'ai pas la.
Vous n'avez pas de surligneur quand vous
là non là pour que Michel Cotta enfin bon toujours est-il que dans le même journal ils ont osé un titre à propos de Madame Sagan pour femme oui. Pas une journée sans une ligne
oui,
ce qui me fait beaucoup rire.
Vous m'avez montré ça tout à l'heure mais
il s'agit bien évidemment de lecture d'écriture.
Ah, c'est pour ça que c'est drôle oui.
C'est la pêche face à la ligne
voilà
non, d'accord.
D'ailleurs il a été interviewé par une Christine Orban et c'est assez amusant parce qu'on voit les photos je sais bien que les photos à la radio c'est pas extraordinaire non. Mais enfin on voit que l'interview se fait de telle manière qu'elle est au téléphone alors que Christine Orban est dans la pièce. Alors, elle a une ligne de trop, je pense.
Une ligne de téléphone.
Une ligne de téléphone,
bien sûr, en
l'occurrence. Il s'agit de ça. Dans le même canard femme, il y a des fautes d'orthographe absolument épouvantables dans les titres, qui m'ont quand même...
L'orthographe...
Oui, il y en a qui gardent des moutons. Il y en a qui... Oui, c'est ringard, tout à fait.
Qui gardent des moutons.
Qui gardent des moutons, absolument, des moutons. Et il y en a qui gardent G-A-R-D-E, évidemment, et c'est un titre. Et moi, je garde la mer. Bon, c'est bien. Alors, j'essaye de retrouver la notion sur Delors. Je ne la retrouve pas, et c'est bien dommage. Ce sera pour une fois prochaine.
Si Est-ce qu'on peut recommander à nos lectrices de lire Femme?
Ah, c'était présenté. J'avais fait un sort à Femme particulièrement parce que c'était présenté autrefois comme l'avenir intellectuel de la femme qui tranchait sur les journaux prétendument féminins. Et en fin de compte, tout ça pour tomber dans des âneries qui sont les âneries de la presse féminine.
Hélas, pas seulement féminine.
Pas seulement féminine. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être une rubrique photo.
Oui, encore
une rubrique photo.
Comme vous l'avez dit.
À la radio, ça me paraît tout à fait s'imposer. Ça n'a pas beaucoup été fait.
Ça sera encore une innovation de
une
cette
innovation,
émission.
Hein.
Il faut reconnaître qu'on en fait beaucoup.
Un numéro du Point, je reviens au Point, du 16 avril 94, indiquant, il y avait juste une photo, Monsieur de Grossourd. Le dossier était sur l'Élysée Noire. Alors, cette photo n'a qu'une seule information, il y a une légende. L'information, c'est 14 juillet 92, François de Grossourd en compagnie de son épouse, et on voit l'information sur la photo qui est montrée, c'est il a le dossier du 14 juillet 1982.
Oui, oui. Alors, sous le bras, il faut bien expliquer, c'est une photo de Grossourd, avec sous le bras un dossier
14 juillet,
où on voit 14 juillet 1982, et la légende explique que
14
c'est 14 juillet 1992. Alors, il y a plusieurs hypothèses
oui,
quand même pour expliquer ça. Première hypothèse, c'est que...
C'est les journalistes ne font pas leur travail, tout simplement.
Oui, ça,
mais
c'est
ça, j'ai beaucoup de mal à l'admettre, ça me paraît impossible.
J'allais vous le dire, c'est l'hypothèse invraisemblable par excellence.
C'est impossible. Alors, il y a une hypothèse médicale. Grossourd, comme on l'a fait savoir...
Pardon, il y a une hypothèse... dont je dirais qu'elle relève simplement de la lecture. C'est
oui.
Peut-être que l'auteur de la légende fait partie de ces gens qui ont choisi, quand on leur a dit « Est-ce que vous voulez apprendre à lire ou à écrire ?» Lui, il a choisi d'apprendre à écrire.
À écrire, tout à fait.
Mais il n'a jamais appris à lire. C'est possible aussi.
C'est possible. Voilà.
Et puis, il y a l'hypothèse médicale, effectivement.
L'hypothèse médicale, mais c'est Grossourd, comme l'a fait savoir l'Élysée, était gâteux.
Oui.
Et il croyait que son revolver était un coton-tige, par exemple. Et bon, il s'est trompé. Alors, la troisième hypothèse, c'est l'hypothèse terroriste. C'est la rédaction du Point a été prise en otage. Et un journaliste prend de gros risques pour nous le faire savoir.
Ah oui.
De manière codée.
Oui.
Hein. Mais qu'est-ce que fait la police pendant ce temps-là? On ne sait pas. Alors Calvert dure depuis avril 94, hein, tout de même.
Ah oui,
alors, il est peut-être temps d'aller libérer les
le
confrères du Point. Il y a l'hypothèse esthétique. Je vois que Madame Bravoura est là. Elle connaît le Magritte.
Oui.
Oui, ceci n'est pas une pipe. Alors, ceci n'est pas un 14 juillet 1982. Il s'agit de...
Du rideau de fumée de la pipe.
Voilà, du rideau de fumée de la pipe. Il y a l'hypothèse du complot. On a cherché à rendre sérieusement fou François de Grossourd.
Ah
on
oui,
lui égarait ses programmes, on l'invitait, et on lui disait que c'était 82,
c'était
il croyait parce qu'il était naïf.
Oui. Alors ça c'est le...
Ses amis s'enrichissaient brusquement, sans cause, sans raison, et ça
et
rendait
pas lui.
Fou.
Et pas lui.
Oui, ou pas,
ça fait penser au feuilleton Le Prisonnier.
Oui, tout à fait.
Est-ce que Grosseau n'a pas été en fait emporté?
Je crois
dans...
que l'Élysée est un village.
Voilà.
On ne s'échappe pas de l'Élysée comme ça. Monsieur Mitterrand a essayé de s'échapper et il n'y a pas réussi. Oui, bonjour chez vous. D'ailleurs, c'est le jour de son anniversaire. On peut lui faire...
C'est le numéro 78.
78, voilà. C'est le numéro 78 qui vient de sortir. Alors, voilà, c'était la rubrique photo que je propose.
Alors, voilà. Mais il faudra trouver pour la prochaine fois une nouvelle photo.
J'en ai quelques autres. Je ne veux pas non plus vous infortuner, comme on le dit.
Merci Michel Blanzard. C'est quand même extraordinaire, Marie-Josée, cette espèce de goût pour l'incohérent, le paradoxal, le bizarre dans la presse. Et quelqu'un qui lit les journaux tous les jours comme moi, je cherche, parce que maintenant que je connais Blanzard, j'essaye de faire comme lui.
Ah, lui, il fait comme eux aussi, hein, parce qu'il a dit sérieusement fou. Hein.
Oui, bah c'est joli, ça, sérieusement fou. Quoique, c'est pas bête du tout comme idée d'être sérieusement fou.
Pareil, il n'y a que ça. Hein. Il n'y a que ça. C'était le... Je réinterviens, mais après, je comprends. C'était la proposition faite par Galtier-Boissière, en fait.
Qui
consiste de sourire face à tout ce contre quoi on ne peut lutter.
Ouais.
Et au bout du compte, je ne vois guère que ça, parce que sinon, on se laisse totalement submerger.
C'est du judo mental.
Oui, tout à fait. Comment voulez-vous prendre Léotard au sérieux?
Oui.
Trop tard.
Trop tard, oui. Le mieux disant culturel s'est passé.
Bien, alors, des appels, des messages.
Mais justement, je m'apprêtais à ouvrir la rubrique « Pense sur le Beketch ». Et voilà une auditrice qui remarque que Monsieur de Beketch ne passe jamais les messages des auditeurs qui sont en désaccord avec lui. Alors j'y vais.
Alors je vais vous dire à quel point c'est pas vrai. Ça c'est vraiment alors purement et simplement de
le coup bas. Le coup bas.
Parce que tous les jours, enfin pas tous les jours, mais tous les lendemains d'émission, j'ai des appels téléphoniques d'amis qui me disent mais pourquoi tu t'entêtes à passer les messages des gens qui t'insultent. Donc, vous pouvez pas dire ça, madame, c'est pas vrai.
Non, mais ils sont convenables, hein. Ils vous font remarquer que ce n'était pas Catherine Ney, mais Christine Clair.
Oui, oh,
Figaro.
De toute façon, alors je vais vous dire ça, vraiment.
Non,
Catherine Ney, elle a beaucoup de talent.
Mais Christine Clair aussi, elle a beaucoup de talent.
Ah ouais? Mais au service de quoi?
Non. Alors, tiens. Alors, et vous n'allez pas faire de commentaires, parce qu'autrement, je sais pas ce que je vous fais. Dans son dernier. Dans son dernier carnet du Figaro, elle a une phrase admirable. Elle dit, comme beaucoup de Français, j'ai changé d'avis à propos du tchador, du foulard islamique. Moi-même, virgule, adolescente, virgule, ne portais-je pas un voile à bord de mon Solex?
Oh non.
Donc elle a tout compris au problème du tchador.
Sur des riches, c'est bien ça.
Voilà, c'était tout ce que je voulais. Mais cela dit, elle a beaucoup de talent, Christine Clair. En plus, elle est belle comme le jour.
Oui.
C'est elle qui fait 1m94 ou
C'est Catherine Ney.
1m75. Bah, tout ce qui est plus grand que moi, de toute façon, c'est 1m94. Alors.
Et puis par ailleurs...
Parce que vous faites 93?
Oui, c'est ça.
Par ailleurs, c'est le Conseil Général de Vendée pour monsieur.
Qu'est-ce que j'ai dit? Régional.
N'importe quoi.
Oui, comme d'habitude. Enfin, nos auditeurs ont rectifié d'eux-mêmes.
Étant donné le niveau intellectuel des auditeurs, je crois que c'est pas la peine de rectifier.
Absolument, ils auront rectifié d'eux-mêmes.
Absolument.
C'est un compliment, il faut dire.
C'est un très grand compliment pour les auditeurs.
Quand je vous entends revenir et revenir sur ce voile, un auditeur nous dit... D'accord avec Victoria, je pense que Serge a dû subir des menaces des islamistes pour tenir de tels propos.
Ciel, je suis démasqué. Comment cet auditeur a-t-il
pu... Non, vous êtes dévoilé, pardon, je vous ai coupé, mais...
C'est vrai. Mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un, on a pu le remarquer depuis des années que je tiens cette émission, qui cède immédiatement à l'injonction, à la menace, tout ça.
Ah oui.
Et donc effectivement j'ai été menacé, je l'avoue. Par les islamistes, ils m'ont menacé de me couper la barbe.
On dit toujours d'ailleurs, Serge, ne pouvant chanter, on peut le faire chanter.
On peut le faire chanter, oui.
Eh bien, moi qui n'ai pas été menacé encore, je lis le message de la dame qui dit « Je voudrais soutenir Victoria, car elle a raison, c'est de la provocation à Créteil des jeunes filles qui avant étaient en mini-jupe, portent maintenant le tchador. »
Jusqu'à quel niveau?
Ben alors, non mais
qu'est-ce que ça a à voir avec les mini-jupes?
Non mais elles ont enlevé la mini-jupe, elles ont mis une grande jupe et un tchador.
Franchement,
donc elles ont vraiment évolué.
Si j'avais une fille qui se balade en mini-jupe, d'abord je lui botterais ce qu'elle essaye de montrer, première chose. Mais deuxième chose, enfin mini-jupe, je veux dire, exagérée, parce qu'il y a aussi... Mais deuxième chose, si du jour au lendemain, elle se mettait à porter des jupes plissées à mi-mollet... je serais très content. Donc je vois pas comment on peut reprocher à une jeune fille qui s'est promenée en mini-jupe de se décider tout d'un coup à adopter la tenue vestimentaire que sa religion lui impose.
Ça prouve qu'elle a vite changé de religion.
Pas nous, c'est aberrant comme
étiquette. Et puis alors, pour monsieur de Villiers, vous êtes en retard d'information. Il est passé, vous l'avez entendu là, à l'heure de vérité, mais il est aussi passé sur Radio J. Je ne dis rien. Hein. Le 16 octobre même, c'est. Et il a déblatéré sur M. Le Pen et le Front National. Et vous n'êtes au courant de rien.
Il faut dire que... c'est pas ma tasse de thé, quoi, cette radio-là.
Le jour J, ça veut dire quoi?
C'est Radio Jimmy, vous savez, c'est les jeunes.
Radio Jimmy. Oui, monsieur Blanzard.
C'est l'esprit d'escalier, j'étais en train de partir, j'ai retrouvé, à propos de Delors écrit par Michel Cotta. Voilà la référence qui m'a beaucoup plu. Comme si au moment ultime, celui du Rubicon, qui est le moment ultime, c'est bien connu.
Il n'y a qu'à regarder sa montre.
Il se refusait à franchir le cap du Rubicon.
Le cap du Rubicon.
Et alors, Michel Cotta m'intéresse particulièrement parce que j'ai appris récemment que sa prime de licenciement se montait à 5 millions de francs. De TF1, et je trouve que c'est beau quand même d'être payé 5 millions pour ça.
Mais vous savez que c'est pas idiot au moment ultime, celui du Rubicon, il renonçait à franchir
le cap. C'est pas le moment ultime, c'est la première étape, normalement, le Rubicon.
Oui, bien sûr. mais en plus, au fond, le cap, c'est un cap, ça n'est pas
de bonne espérance.
C'est une péninsule, c'est le gros pif de Cyrano. Qui était probablement Rubicon.
Rubicon, certainement, oui. Donc, vous voyez qu'elle procède par association d'idées.
À mon avis, c'est
si ce n'est de malfaiteur.
Elle doit croire que affranchir le Rubicon, c'est donner
c'est
des renseignements.
C'est affranchir un esclave qui.
ça, elle ne sait même pas. C'est donner des renseignements à un gros bonhomme rougeau.
Enfin, bon, toujours est-il que
l'orchestration des idées se fait par personnes de ce genre. Voilà, c'est quand même redoutable.
C'est quand même quelqu'un. Michel Cotta, c'est quelqu'un qui a été. Quelque chose à la radio ou à la télévision.
Je ne sais pas, oui.
Si, important. Quelque chose, qui a occupé un poste important, oui. Enfin, qui a occupé un poste important et qui a été au CSA, si je ne me trompe pas.
Je crois que l'important, c'est qu'elle l'ait occupé, en effet.
Elle aurait mieux fait de s'occuper à lire un petit peu des dictionnaires. Donc, alors répétez-nous cette phrase admirable, s'il vous plaît.
Je l'ai simplement de tête, là. Si, au moment ultime, celui du Rubicon, dont il se refusait à franchir le cap, il s'agit de Jacques Delors. Voilà.
Franchissons donc le cap du Rubicon avec une dernière question d'auditeur.
Non, c'est une auditrice qui apporte de l'eau à votre moulin. Dans un récent numéro du Point, il y a eu cette faute cocasse, la chapelle Sixtine, S-I-X-T-2-E-N. C'est écrit à l'anglaise. C'est joli, ça.
Du 16e siècle.
Sixtine Tone. Voilà, encore quelque chose, non?
Oui, ça c'est toujours dans Pension le Beckett, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous et qui dit « Non, monsieur Bérou n'est pas un menteur, c'est un monsieur honorable, il faudrait bien que vous arrêtiez. »
Mais non, mais je crois qu'il doit y avoir une parente de Bérou qui écoute cette émission, parce que chaque fois que j'ai attaqué Bérou, même d'une façon un peu... Je l'aime bien finalement,
on
Bérou.
On est plusieurs à aimer.
Il a pas l'air vrai, lui.
Il a été bien avant d'être ministre, il avait plein de bonnes idées. Mais puis alors, il est arrivé dans un tel état...
Bah, tous.
Ah non, mais c'était... Non, mais il a trouvé une telle situation qu'il n'a même pas osé parler méthode syllabique à l'école.
Alors, vous rappelez qu'il ne faut plus dire de mal de Bérou.
Non, alors, ne dites plus de mal de Bérou, vous me faites de la peine. Okay. J'espère toujours qu'il va rétablir le syllabique. C'est tout. Attendez, si Madame Christine Claire, dimanche soir sur Antenne 2, a attaqué avec un sourire ironique Philippe de Villiers, en lui demandant s'il portait toujours... autour du cou, une médaille de la Sainte Vierge.
Oui, il a répondu oui, bien sûr. Il a dit, c'était pas ironique, c'était un petit peu...
Persifleur
agressif. Vous avez votre médaille de la Sainte Vierge, d'un air de dire pauvre...
Et cet auditeur pense que de la part de Christine Claire, c'était curieux.
Non, c'est parce qu'ils la connaissent mal.
Parce qu'elle porte un tchador sur son soleil.
Exactement.
Et il a répondu, d'ailleurs, là, il a été bien, Villiers. Moi, je suis partagé sur ce personnage. C'est-à-dire, là, il l'était bien, il a dit, oui, je l'ai sur moi, bien sûr. Pourquoi? Enfin, il avait l'air abasourdi par la question.
Et alors, une question d'auditeur. Pourriez-vous dire un mot de ce nouveau parti politique que viennent de fonder notamment messieurs Longuet, Carignan et Noir, et qui s'intitule Combat pour les voleurs.
Excellent.
Je laisse à cet auditeur la responsabilité de cette question. Voilà, bah, écoutez, c'est tout donc.
Oh, j'avais un beau fax, mais je n'ose pas vous le lire parce que vous allez encore dire que j'insiste.
Non, bah, allez-y, il faut tout.
Pour une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec monsieur de Bekech. Il a raison de dire que les petites filles voilées, souvent dès la petite enfance, alors que la règle n'a été faite que pour les femmes déjà formées, sont des victimes et non des coupables. J'ajouterai qu'une enfant voilée me choque moins qu'un adolescent crasseux, arborant un t-shirt, nique ta mère ou l'équivalent. Mais toutes ne sont pas si petites que cela. Certaines ont 18, 19 ans et ne se privent pas, je l'ai entendu ce matin sur France 2 aux informations, de proclamer qu'elles ont choisi le voile pour islamiser, oui, je l'ai entendu, voire ré-islamiser la France. Et oui, je comprends les enseignants qui n'aiment pas beaucoup avoir dans leur classe 6 ou 7 visages indéchiffrables, parce qu'à moitié, ou aux trois quarts masqués, 6 ou 7 opposantes aux cours de sciences, de musique, aux activités physiques. Alors pourquoi diable venir encore nous parler de laïcité? Sans revenir à l'uniforme, il suffirait d'exiger, comme il y a quelques années, que les élèves aient une tenue correcte, sans inscription sur les vêtements, sauf éventuellement le nom de l'établissement, voire le nom de l'élève.
Oui, mais quand l'établissement s'appelle Saint-Louis...
Qu'ils ôtent leur coiffure.
C'est un signe ostentatoire d'appartenance.
Voilà. Qu'ils ne portent pas de bijoux visibles, etc., etc. Et d'ailleurs, pourquoi pas l'uniforme? En fait, c'est ça qu'il faudrait. Retour à l'uniforme.
Diffane, or, enfin, etc. Je vous dis pas la suite, mais vous la connaissez probablement. Oui, les enfants en uniforme. Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit cet auditeur, à condition qu'on aille au bout du raisonnement. C'est-à-dire, il faut se poser la question. Le problème, encore une fois, que connaît la France aujourd'hui, c'est le problème de l'immigration. Un des problèmes les plus urgents et les plus graves. Alors je pose la question à tous les citoyens de bon sens. Est-ce qu'ils croient vraiment que le jour où on aura obtenu que les jeunes filles retirent leur tchador, leur voile, leur hijab, quel que soit le nom qu'on lui donne, le jour où ils auront obtenu qu'on ferme les mosquées ou qu'on cache les mosquées, le jour où ils auront obtenu qu'on interdise aux musulmans de dire leurs prières dans la rue, le jour où ils auront obtenu que les barbus se rasent et que les gens qui sont habillés en djellaba blanche ou en pantalon blanc se mettent en costume trois pièces, est-ce que le problème de l'immigration aura été résolu en France? S'ils me répondent oui, alors faisons ça, commençons tout de suite. Je suis prêt, moi, à voter pour qu'on enlève le hijab aux petites filles. Mais je pense vraiment que, je le dis pour la dernière fois ce soir, que quand on aura obtenu que les 17 lycéennes de Créteil ou de Lille, Soisy sous Montmorentin ou de Paris Vieille Poste retirent leur voile, on n'aura pas fait avancer d'un huitième de iota unum d'ailleurs, le problème de l'immigration en France. Or, c'est ça la question. C'est exactement comme si on me disait, vous comprenez, il est scandaleux que des gens aillent travailler au bureau sans mettre de cravate. D'accord. Et alors, ça change quoi au chômage?
Oui, mais moi je pense quand même que... Oui, non, c'est pas le problème, et je pense quand même que c'est accepté officiellement, justement, cette immigration démesurée. Là, c'est vraiment la preuve. C'est pour ça que ça dérange tout le monde. C'est tout. C'est que tout le monde sait parfaitement bien. Mais c'est fait. Voilà, c'est là.
Étant donné que c'est accepté...
Oui, là, je suis d'accord avec vous. Mais...
C'est tout. Donc, je crois vraiment... Je le dis, la question de la validité ou de la légitimité du tchador, je la pose pas. C'est pas mon problème. Moi, je crois que simplement, les gens qui veulent interdire le voile, au fond, et on le voit avec les déclarations de Drey, ils nous interdiront de porter des croix, et ils nous feront changer les noms des rues et tout. Ce sont des cinglés, ce sont des toqués, ces gens-là. Ce sont des terrorismes du laïcisme, il faut le savoir. Donc, il faut pas marcher avec eux, premièrement. Et deuxièmement, il s'agit de détourner l'attention des Français...
Ça, oui.
Pour empêcher que cette attention se porte sur les vrais problèmes. Ouais. Voilà, c'est tout.
Ça, oui.
Et pour en terminer, après, pense sur le Bekech, pense sur la Victoria. Il paraît que j'en fais un peu beaucoup concernant le tchador. Je sors sur la pointe des pieds.
C'est tout à fait mon avis. Deuxième partie d'émission dans quelques secondes. We'll be right back.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, daté du 26 octobre 1994 et rediffusé ce dimanche 7 octobre 2012 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Rebonsoir à ceux qui étaient là avec nous en première partie, bonsoir à ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie. D'ailleurs, je m'interroge sur les raisons qui font qu'ils n'étaient pas là pour la première, mais après tout, on est dans un pays de liberté, hélas.
Ça commence bien.
Ça commence bien. Hein, c'est... bon, on va passer donc maintenant à quelqu'un de plus libéral, qui est Marc Dem. Bonsoir Marc Dem.
Bonsoir Serge, c'est moi que vous appelez un homme libéral.
Ah bah oui, vous êtes connu, connu pour un libéral intégriste. Ah bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour que vous étiez un dangereux fanatique.
Ah.
J'ai dit que si il y avait que des dangereux fanatiques dans votre genre, on pouvait quand même dormir sur nos deux oreilles.
Oui, oui.
Parce que j'ai pas entendu depuis longtemps qu'on ait tué quelqu'un à coup de pipe. Voilà, je vous signale qu'il y a eu dans la presse de ces jours-ci un grand regain d'intérêt pour la voie romaine que vous explorez dans vos pérégrinations.
Oui.
Oui, j'ai lu un article, on paraît qu'on va essayer de reconstituer cette voie romaine.
Attendez, quelle voie romaine ?
La voie romaine que vous avez dont vous avez repéré des vestiges.
Ah oui, j'ai vu, oui, c'est celle-là, celle que je parcours inlassablement à pied. Oui. Ah, j'ignorais ça.
Oui, oui, il paraît qu'elle est en train, enfin, qu'on est en train d'étudier cette restauration. Alors, j'explique aux auditeurs quand même en deux mots que Marc Dem, quand il n'enquête pas sur l'état de l'église, est un grand marcheur, non pas un vieux marcheur, ce qui n'a rien à voir, est un grand randonneur et qui parcourt la banlieue, la grande banlieue, la grande Île-de-France, à longues enjambées, la pipe au bec et le sac au dos.
Non, je n'ai pas de sac au dos.
Pas de sac au dos.
Je suis nu et sans... Enfin, nu.
Bah, ça, c'est une révélation, alors.
Je suis sans bagages...
Vous allez finir par avoir des ennuis.
Et sans pipe quand je marche. C'est le seul moment, ainsi qu'à la messe, où je n'ai pas ma pipe.
C'est bien. Bah, écoutez.
À la messe, il n'a pas sa pipe.
Non, non, c'est le seul moment quand il marche et quand il est à la messe. Donc ça vous laisse assez peu de temps de fumer, pour fumer finalement.
Oui, que vous voyez, je fume très peu.
Bien, alors, je rappelle que tous ces préliminaires étaient destinés à présenter Marc Dem, directeur, fondateur et rédacteur et tout ça, de Iota Unum, qui est une lettre confidentielle d'information religieuse. Fort intéressante, je le dis pour ceux qui n'en auraient pas encore entendu parler, c'est-à-dire probablement les gens qui tomberaient de Mars depuis hier au soir, et que cette lettre, on peut en avoir un spécimen en écrivant en boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye CEDEX, en envoyant quelques timbres pour la réponse. Et vous allez nous donner, mon cher Marc, trois échantillons des informations que contient la prochaine livraison.
Oui, je ne vous étonnerai pas en disant que l'article de tête concerne un livre qui est paru récemment, qui s'appelle « Entrer dans l'espérance ». Oui. Il est difficile d'en parler à la radio, car étant donné la personnalité de l'auteur, il faut évidemment prendre toutes les précautions voulues pour ne pas commettre de manque de respect. Et donc, je dirais simplement que ce livre a été analysé, que j'y reviendrai d'ailleurs, parce que c'est un livre dont il y a beaucoup à dire, et je conseille d'ailleurs de le lire et puis de nous lire aussi, enfin de lire ce que j'en dis, si on veut, en profitant du lancement, du grand lancement qui en est fait.
Si je comprends bien, sans vouloir m'avancer, vous n'êtes pas totalement pour.
Vous avez beaucoup de perspicacité.
Pardon. Bien. Bah écoutez, on lira, puis on verra.
Oui. Autre nouvelle, oui, l'Allemagne est en pleine dérive. J'en parle souvent de l'Allemagne, parce que j'ai beaucoup de renseignements qui m'en viennent. Et puis qu'en plus, c'est un des pays les plus touchés par la crise post-conciliaire. Alors, la dernière affaire, c'est donc cette histoire des trois évêques, Lehmann, Sayer et Casper bien connu des lecteurs de Utah Unum. Donc, l'attitude de ces trois évêques vis-à-vis des divorcés mariés. Ils ont été donc convoqués à Rome par le cardinal Ratzinger, ils ont eu un long entretien, et on leur a opposé un veto absolu à ce qu'ils proposaient, c'est-à-dire finalement que d'admettre à la communion les divorcés remariés sans trop de complications, et une fois qu'ils auront eu un entretien préalable, comme pour l'avortement, avec un prêtre. Alors, par la suite, il y a eu cette lettre du 14 octobre, donc toute récente, lettre du cardinal Ratzinger publiée sur l'ordre du pape, mettant bien les choses au point. Et surtout, le point suivant, la doctrine de l'indissolubilité du mariage prime en l'affaire, elle n'est pas abandonnée du tout, et la vraie compréhension, l'authentique miséricorde ne sont jamais séparées de la vérité. Et ensuite, le troisième point, c'est le recours à la conscience personnelle n'est pas admissible. Parce que ces évêques disaient, après vous avez un entretien avec un prêtre, et puis ensuite vous jugez selon votre conscience si vous pouvez ou non vous approcher de la Sainte Table. Mais c'est que cela déclenche une véritable révolte en Allemagne, un peu aussi en France, à un moindre titre, mais en Allemagne, il y a eu des manifestations extrêmement graves de plusieurs évêques. Il y a eu le syndicat du clergé, parce qu'il y a un syndicat du clergé en Allemagne, qui répute inacceptable ce que dit le Vatican, et puis beaucoup de curés, qui ont dit, mais ça, on le fait depuis longtemps, nous autres. Donc, cette affaire est considérée par des observateurs lucides comme un pas de plus vers le schisme. En France, vous savez que Mgr de Rouet, évêque d'Arras, a critiqué la position de l'Église. Plus exactement, il n'a pas dit que c'était faux, il n'a pas dit que c'était mauvais, mais il a dit que, une histoire comme cela, une lettre comme celle-là, l'Église va une fois de plus être considérée comme celle qui passe son temps à interdire. Ce sont ses termes propres. Bon, alors, où elle interdit, où elle n'interdit pas. Donc, on peut considérer que Mgr de Rouet et Mgr le Bourgeois, ancien évêque d'Autun, sont hostiles à cette lettre qui vient de Rome.
C'est très très intéressant, ça. Parce qu'effectivement, c'est un point de rupture. Et c'est vrai que ça peut déboucher sur un schisme assez rapidement.
Oui.
D'autant que... ça va probablement se coaguler, si j'ose dire, avec la question du sacerdoce des femmes, avec l'ordination des femmes, avec des questions comme ça.
Oui, choses sont liées, parce que ce sont en général les mêmes personnes qui protestent. Et tout cela est est en ébullition, et cette ébullition n'est pas prête de finir.
Bien, est-ce que vous avez quand même une bonne nouvelle?
Alors, une bonne nouvelle, j'en cherche désespérément. si nous avons un envoyé spécial à Budapest,
oui,
qui a fait le point de la question 50 ans après donc la mise sous le boisseau de la liberté de la Hongrie et de l'Église là-bas. Alors, la situation est pleine d'espoir, bien sûr, mais elle est extrêmement tragique, puisqu'il y avait en 1950, il y avait 2582 prêtres réguliers, séculiers, hein, et il n'y en a plus que 350. Sur les prêtres séculiers, enfin les religieux, il y avait 13 000, il y en avait 13 000 en 49, ils ne sont plus, enfin le chiffre date de 80, que 250. Il est à peu près le même aujourd'hui. Pour un pays...
C'est ça que vous appelez une bonne nouvelle ?
Pardon ?
C'est ça que vous appelez une bonne nouvelle ?
Non, c'est une bonne nouvelle dans le sens que maintenant l'Église va pouvoir, l'Église hongroise va pouvoir se reprendre. C'est tout. Donc c'est une nouvelle en attente, une bonne nouvelle en attente, bon. En espoir.
Enfin, effectivement, il reste l'espérance. Merci mon cher Marc. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien.
Oui.
Où vous nous donnerez d'autres échantillons de votre lettre confidentielle Iotaonum que l'on peut se procurer, je ne le dirai jamais assez, en envoyant quelques timbres. je rappelle quelques timbres à... des timbres postes d'usage courant, pas des timbres à 40 francs, parce que vraiment, on n'en a pas, oui. On sait pas
de
quoi.
De toute façon, un timbre suffit largement. Voilà. Hein, même donc, si on n'a pas de timbre sous la main, on peut demander
ah
un
oui, si on veut on faire l'économie d'un timbre, oui. On peut toujours faire ça. Et on écrit, boîte postale 52 78 101, Saint-Germain-en-Laye, CEDEX. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Marie-Josée de Bravoura, j'indique très rapidement à nos auditeurs que dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons avec M. Stiegler de la suite, plutôt nous aurons avec M. Stiegler, la suite de l'entretien que nous avions eu il y a un mois à peu près, sur Dozulé, sur les apparitions de Dozulé, sur le message de Dozulé, et qui avait suscité un grand intérêt auprès de nos auditeurs. Raison pour laquelle je vais demander à M. Stiegler de revenir. Il est là ce soir, on parlera donc de ça. Et je pense qu'il reviendra une troisième fois pour parler d'un troisième aspect de cette question, peut-être dans un mois, enfin on fixera la date hors micro. Ma chère Marie-Josée, vous nous parlez, vous nous donnez une fois par mois de bonnes raisons d'aimer ou de ne pas aimer un peintre.
Oui, mais je vous ai vu tellement triste par tous ceux que je n'aimais pas que je récidive. Ça veut dire que la dernière fois, j'avais parlé de trois peintres que j'aimais et aujourd'hui encore d'un quatrième peintre que j'aime.
C'est-à-dire que comme il s'agit de Jérôme Bosch, c'est un peu difficile de ne pas l'aimer quand même.
Mais c'est-à-dire que ça permet quand même aussi de dire des choses moins gentilles pour ceux qui pensent que la bande dessinée, c'est quelque chose qui a été inventé au XXe siècle. Mmh. Et qu'il faut surtout mal la peindre, mal la dessiner, et qu'à plus elle est, à plus ça veut dire que la laideur du monde est grande.
Alors Jérôme Bosch, c'est quelle période ça ?
15e, 16e, hollandais, et c'est ça que vous voulez ?
Oui.
Au moins, j'ai passé mon bac. Hein.
Ça vaut encore quelque chose, un vieux truc comme ça ?
Mais ce qui est assez extraordinaire quand on regarde Jérôme Bosch, c'est que il est incroyablement contemporain. Mais maintenant, on n'ose plus dire contemporain puisque l'art officiel est tellement laid que les auditeurs le confondent avec l'art contemporain. Que lorsqu'on regarde Jérôme Bosch, c'est un merveilleux homme de BD. Ça veut dire qu'il a créé des monstres, il a créé des choses, il a eu des visions. Et Jérôme Bosch, lui, prouve que pour peindre la laideur, eh bien, il faut savoir très bien peindre. Alors il y a deux ou trois choses dans l'art officiel contemporain que je hais particulièrement. C'est l'utilisation de la médiocrité en disant que c'est un effet coup de poing. Parce qu'un jour j'avais dit à un fabricant de BD qui vendait des originaux hors de prix. Je lui ai dit mais c'est pas pensable, c'est mal dessiné, c'est mal peint, c'est pauvre. Il y a des erreurs de perspective très graves et d'anatomie. Alors là on n'en parle pas, ils n'ont jamais dû voir comment était bâti un homme. Et il m'a répondu, mais madame, vous n'êtes plus dans le coup, c'est simplement, ça donne un effet coup de poing, c'est l'idée qui prime. Vous savez, on est un siècle d'intellectuels. Et quand vous regardez Jérôme Bosch, eh bien, vous avez l'effet coup de poing, mais au lieu d'être un effet coup de poing dû à la médiocrité et à un rouge très vif, eh bien, c'est un coup de poing très bien amené depuis très loin. Alors ça, déjà, sur le plan de la BD, on n'a rien inventé, on en a fait en Orient, ça j'ai souvent dit, on en a fait au 15e ou au 16e siècle, ça je ne l'avais pas encore dit, mais à ce moment-là, elle était bien faite. Mais si Bosch était simplement réduit à la BD, ce serait peut-être un petit peu trop peu, mais en plus de ça, certains ont dit qu'il avait été le plus grand surréaliste du 15e siècle. Or, un peintre normalement constitué doit dire des choses très différentes. Et je ne sais pas si je l'ai dit aux auditeurs, mais c'est vrai que quand on est artiste, on ne crée rien. On met à sa sauce si possible, ou des choses très importantes qu'on a subies, qu'on a ressenties, ou des choses très importantes qu'on a observées, regardées, qui ont fait quelque chose sur vous. Puis alors après, il y a une petite cuisine qui est assez fabuleuse, c'est se rendre responsable, se rendre perméable du moins à, et ça on ne peut pas très bien expliquer, à une osmose qui fait qu'on a l'impression de ne pas être celui qui fait. C'est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est pourtant
se
ça.
Se faire chevaucher, comme on
dirait. On est dans le vaudou. Serge, faites attention à ce que vous dites.
C'est ça, c'est les vaudouistes disent ça.
Non, on a l'impression, après, qu'on est en état, Georges Mathieu dit de grâce, mais c'est à peu près ça. On est en état second, et tout ce qu'on a reçu, on le retransmet d'une manière différente. Donc ça, c'est vrai que Jérôme Bosch aussi est aussi quelqu'un qui est tout à fait surréaliste. Et dans certaines de ses peintures, en plus, il y a beaucoup de compositions qui sont très proches de Gustave Doré. Donc c'est un homme d'une richesse absolument fabuleuse. Mais lorsque vous prenez un détail de n'importe lequel de ses tableaux, le dessin est parfait. Le choix des couleurs, c'est très amusant parce qu'il a des couleurs très claires, très vives, dont on pourrait dire aussi que c'est très moderne. Son imagination est mise plutôt au service de l'horreur du monde, c'est peut-être pour ça que je l'adore, parce que c'est vrai qu'à la fin de l'avoir sous le nez, ça vous défoule d'en parler, ben lui l'a peint. Il a été tout à la fois et au 15e siècle. Alors maintenant, ce qui est très grave, c'est que si on demande à des élèves de 4e année des Beaux-Arts qui était Jérôme Bosch et pourquoi il est bon, ils ne le connaissent certainement pas plus qu'ils ne connaissent ni les règles d'or ni quoi que ce soit. Et pour les plus adultes, je crains non plus qu'ils ne le connaissent pas plus que ça.
Est-ce qu'il y a des ouvrages, des recueils, de reproductions d'œuvres de Jérôme Bosch qui
on en trouve un peu partout, oui. Ouais. On rentre dans n'importe quelle librairie qui s'occupe de livres d'art et on retrouve des... Moi, j'en ai trouvé un que je trouve très bon, mais on n'a pas le droit de faire de la publicité, si j'ai le droit de dire comme...
Bien sûr, il faut le dire.
Parce que moi, j'ai trouvé qu'il était très bien fait, c'est les éditions Tachène, ou bien le livre Tachène, et je trouve que les reproductions sont bonnes, et qu'il ne nous bassine pas à l'intérieur avec l'histoire de sa petite sœur, de son petit frère, et pas des tableaux. Donc ça laisse le lecteur surtout devant un tableau et des explications du tableau. Parce que de Jérôme Bosch aussi, il y a très souvent des spectateurs ou des auditeurs qui disent « Oui, mais on ne sait rien de lui. » Ben tant mieux. Parce que quand on ne perd pas 9 dixièmes d'un livre à connaître la vie de l'auteur, on peut éventuellement s'intéresser à ses tableaux. Et vous le connaissez, Jérôme Bosch ?
Ah, je connais ses tableaux, j'en ai vu quelques-uns, oui.
Et il arrive réellement à faire...
Mais je ne connais rien de sa vie. Vous voyez, je savais même pas de...
Il est très peu connu. On ne connaît presque rien de sa vie. Et il répond aussi à une quatrième objection, souvent des gens, c'est de savoir si l'État ne doit pas s'impliquer dans la manière d'apprendre l'art. Et de penser qu'un artiste qui est seul, et dont on ne connaît rien, ça veut dire qu'il ne s'est pas mélangé à la population, fait des œuvres trop personnelles, donc individualistes, donc égoïstes, donc pas sociales. Lui, c'est l'exemple absolument contraire. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui dans la plupart des expositions qui se veulent un peu BD, ce sont les problèmes personnels, effectivement individuels et égoïstes d'un humain, mais qui ne représentent absolument pas le problème de son époque. Alors que Jérôme Bosch, en vivant tout seul dans son coin et avec son imagination délirante, a observé et elle nous a sorti exactement tout ce qu'était le Moyen-Âge à cette époque-là.
Alors... Une auditrice dit « Jérôme Bosch n'est pas un peintre néerlandais, c'est un peintre flamand ». Elle ajoute « primitif ».
Oui, absolument.
Ouais. Mais à cette époque-là...
La Hollande, est là, oui.
La Flandre, les Pays-Bas et le Néerlande étaient peut-être une chose à peu près semblable.
Exactement. Voilà. Exactement.
Merci Marie-Josée. Vous m'avez donné envie de re-regarder du Jérôme Bosch, et je vais peut-être vous confisquer ce livre.
Très volontiers,
il est très beau. Pour le mettre dans ma poche.
Oui, il y a déjà Victoria qui s'en est emparée.
Non, mais moi, je l'ai regardé.
Oui, il est très beau, c'est vrai.
Et tous les détails sont beaux. Et si, lorsque vous voyez un fond de Jérôme Bosch, il est aussi riche que si c'était un tableau abstrait. Il fait tout. Les personnages, les fonds, les couleurs, les perspectives, les humains et même les monstres.
C'est un peintre.
C'est un peintre, un vrai peintre.
Merci. Jérôme Bosch est le peintre préféré de Françoise Sagan. Ben voilà encore une ligne que nous avons en commun. Jérôme Bosch a des relations avec l'alchimie. Ah,
on a dit beaucoup de choses sur Jérôme Bosch. On a même dit, on s'est partagé pour savoir si ce qu'il avait laissé transparaître de goût pour la liberté de la sexualité était en faveur de la sexualité ou contre. Et en fait, apparemment, ça a toujours été plutôt contre qu'en faveur, bien qu'on ait dit qu'il appartenait à des sectes qui se voulaient comme Adam et Ève, etc., etc., etc. On a dit beaucoup de choses parce que ça dérange beaucoup de voir la laideur de ses concitoyens sous le dé.
Merci. Je signale à Marc Dem qu'il vient de recevoir un fax de Charlotte Corday, dont je ne pensais pas qu'elle était aussi équipée d'une façon aussi moderne, et qui lui dit « Y a-t-il lieu aujourd'hui d'être pour ou contre le pape ?» Marc Dem est-il catholique ou remonte-t-il à l'époque des guelfes et des ultramontains, courtoisement une papiste? Alors voilà, les questions sont posées, Dem pourra répondre.
Si elle est papiste, c'est qu'elle est très catégorisée.
Elle est papiste, tout catholique se doit d'être papiste, forcément, il n'y a pas le choix.
Et après, pont sur le Beccacci, pont sur la Victoria, pont sur un auditeur qui n'a pas bien écouté parce qu'il se plaint qu'on n'ait pas passé son message démontrant votre erreur d'avoir roulé pour Philippe de Villiers au début. Mais vous l'avez dit vous-même que vous aviez plutôt de la sympathie pour Philippe de Villiers.
J'ai jamais roulé pour Philippe de Villiers.
Vous n'avez pas roulé, mais vous avez expliqué tout à l'heure que
Je ne roule pour personne.
Au début, vous aviez plutôt de la sympathie.
J'ai plutôt de la sympathie pour Philippe de Villiers. C'est pas un personnage antipathique, c'est pas un imbécile, c'est pas une crapule. C'est quelqu'un de plutôt agréable. Mais je suis navré de voir que qui n'a pas un comportement courageux.
Moi, je suis tout à fait navré du choix de son architecte.
Ah, ça, c'est une paire de manches.
Non, ça rejoint. C'est vrai que c'est plus dans. C'est quand même très gênant. C'est pas très cohérent avec l'engagement du monsieur.
Non, je trouve pas non plus. Mais enfin, ça, on pourra en parler.
Oui, ça, c'est très important.
Merci, Marie-Josée.
Merci à vous.
Alors, je crois qu'il y a déjà une protestation à propos de la présence de monsieur Stigler qui dit « Je suis surprise d'entendre que l'association Dezulé est reçue sur Radio Courtoisie. Je suis déçu que Radio Courtoisie reçoive cette association. » Ben, écoutez, madame, comme je vous comprends, c'est vrai que vous avez parfaitement le droit d'être déçu que je reçoive l'association Dezulé. Il y a des gens parfois qui sont déçus que je reçoive.
Ça y est, je savais qu'il allait le dire.
Des gens qui sont déçus que je reçoive la chorale des petits chanteurs à la gueule de bois. Il y a des gens qui sont déçus que je reçoive. Et dans ce cas-là, il y a quand même une technique. Comme j'annonce, je dis voilà, on va parler maintenant pendant une heure à peu près avec M. Stigler de Dezulé. Eh bien, je crois que. Il y a beaucoup de livres à lire, il y a même peut-être à cette heure-ci à regarder la télévision, il y a à prendre le métro pour aller à la mutualité rejoindre Roger Hollande pour la grande manifestation qu'il donne ce soir, manifestation de résistance et de patriotisme. Il y a plein d'activités qui font qu'on n'est pas absolument obligé d'écouter une émission qui déplaît sur la radio.
De toute façon, il n'a jamais un qui a téléphoné pour dire qu'il était déçu que Serge de Bekech soit derrière le micro.
Arrêtez-vous,
monsieur
je ne dirai
Stigler,
pas quoi, il y en a
bonsoir.
Certains
qui écrivent. Bonsoir,
Serge. Alors, vous êtes venu il y a un mois à peu près, nous avons parlé de Dezulé, et effectivement, on a eu des réactions positives, on a eu des réactions des gens qui nous ont remerciés d'en avoir parlé, et puis il y a eu des réactions très négatives, très critiques. Ça veut dire que ça fait parler, que ça intéresse.
On est dans un pays de liberté.
Oui, je le regrette. Déjà dit. Non, blague à part. Je crois que il faut, je l'ai dit mille fois, donner la parole à ceux qui veulent la prendre et qui ont des choses à dire, même si on n'est pas forcément d'accord avec eux. Et je crois que, en tout cas, en ce qui concerne cette affaire de Dezulé, je dirais que j'ai pas envie de prendre le risque de ne pas vous donner la parole. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Alors, est-ce que vous voulez nous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là lors de l'épisode précédent?
Oui, volontiers.
Ce qu'est Dezulé.
Tout d'abord, merci pour votre courage, parce qu'effectivement, il y a pas mal de gens qui parlent sans savoir de quoi il s'agit et qui s'avancent d'une façon peut-être pas très chrétienne sur un sujet qui est éminemment catholique. D'abord, il faut savoir que Dezulé, effectivement, n'est pas une secte, comme je l'ai déjà dit, mais c'est une petite ville qui se trouve en Normandie, en Basse-Normandie, près de Deauville, dans le pays d'Auge. C'est C'est un endroit où s'est passée l'histoire, on peut le dire, la plus extraordinaire depuis 2000 ans dans l'Église et non pas hors de l'Église. Car c'est la première fois qu'un évêque a donné l'ordre au prêtre de la paroisse, qui s'appelle l'abbé Lorset, qui vit toujours, et aux trois religieuses qui étaient directrices et enseignantes dans l'école Saint-Joseph de Dozulé, de faire des procès-verbaux pendant 10 ans, de 1972 à 1982, et donc de taper à la machine, dater et signer chaque message qu'une voyante mère de famille, Madeleine Aumont, qui va avoir 70 ans demain, je crois, et donc de noter tout par écrit et de lui transmettre ses procès-verbaux le jour même des messages recueillis.
Elle nous écoute peut-être d'ailleurs, parce que je précise que Radio Courtoisie peut être entendue
sur Caen.
Depuis Caen, et, oui. Et donc on entend très bien à Trouville, je suppose à Deauville et à Dozulé qui est à quelques kilomètres.
Oui, je sais qu'il y a des gens sur Dozulé en tout cas qui écoutent, et... Il faut bien savoir que nous ne sommes ni une secte, ni un groupe de farfelus, ni des illuminés, mais que dans l'Église, il y a des gens qui vivent la routine de tous les jours, qui ne s'en font pas, et qui ont peut-être raison de ne pas s'en faire, mais enfin qui ne cherchent pas plus loin que ce qu'ils vont trouver le dimanche dans le sermon de leur paroisse. Mais pourtant, c'est exactement le contraire que nous demande l'enseignement de l'Église, c'est d'attendre, de veiller et de prier. Et bien, en ce qui concerne Dozulé, en 1982, j'ai eu la chance de rencontrer ce message tout à fait par hasard et par la suite, en 83, quelques mois plus tard, de faire connaissance avec Madeleine qui m'a confié ses manuscrits. J'ai fait plus de 10 ans d'enquête et auparavant, avant moi, il y a eu Jean Guiton, l'académicien et écrivain catholique, qui avait demandé à son ami Gérard Cordonnier, qui était ingénieur polytechnicien et spécialisé dans ses loisirs, dans l'étude de ces phénomènes mystiques, notamment dans l'étude de Pellevoisin, de faire une enquête très très minutieuse. Et Gérard Cordonnier donc avait fait une enquête pendant 9 mois avec l'agrément et à la demande même de l'évêché. Il était venu pendant 9 mois tous les week-ends à Dozulé, avait examiné chaque message, avait interrogé les témoins, avait fait des recoupements avec l'écriture, et s'était aperçu qu'il ne s'agissait pas du tout d'une affaire superficielle de voyance ou d'extralucide ou d'illuminisme, mais qu'il s'agissait d'une affaire extrêmement grave. Très peu de gens savent qu'aujourd'hui, il y a deux catégories de révélations. Il y a les révélations privées, d'une part, qui concernent les révélations faites à une personne pour son bien propre, pour son évolution spirituelle propre. Et d'autre part, il y a les révélations dites publiques, qui sont données à une âme privilégiée, à une personne douée d'un charisme spécial. Là, en particulier, il s'agit de voyance. Donc, pour la conduite de toute l'Église et pour le bien des fidèles. Et là, il s'agit véritablement d'un message destiné non seulement à l'Église, mais au monde entier. C'est ce que Gérard Cordonnier, ce polytechnicien, avait dit dès l'examen de ses procès-verbaux. Vous n'avez pas le droit de garder secrètes ces paroles capitales. Elles ne s'adressent pas à l'Église, pas à l'Église de France, ni à l'Église romaine. Elles s'adressent à toute l'humanité, à toutes les religions et même à tous les incroyants. Parce qu'en effet, le Christ à partir, puisqu'il s'agit d'apparitions du Christ, qui n'ont pas eu lieu dans une cuisine ou dans un champ, mais à la place du Saint-Sacrement. Alors peut-être qu'il serait peut-être bon de rappeler encore une fois ce que c'est qu'une secte, parce que on vient d'entendre dans les semaines passées l'histoire macabre de cette secte, et on entend à chaque instant de nouveaux gourous profiter effectivement de la multiplication des catastrophes aussi bien naturelles que d'origine humaine pour affoler les gens, et naturellement le but de la secte c'est toujours le même, récupérer de l'argent. Et quand on regarde bien qui fait partie de ces sectes, ce sont toujours d'anciens catholiques. Des gens dont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents ont une souche très profonde dans l'Église et qui ont complètement laissé tomber. Qui se sont laissés avoir par des illuminés, par des gens très habiles, comme on l'a vu dernièrement. Eh bien, qu'est-ce qu'une secte? Le mot secte vient du latin secta, du verbe sequi, qui veut dire « je suis », Et on désigne par secte...
Je suis... De suivre.
Hein, je, suivre, voilà. On désigne par secte un groupement religieux d'un nombre restreint de fidèles qui adhèrent aux révélations faites aux fondateurs de la secte. Donc il faut que, dans une secte, le fondateur de la secte émette un message qui soit différent de celui de l'Écriture. Comme chacun peut le constater, les révélations faites à Dozulé viennent du Christ présent à la place du Saint-Sacrement et sont confiées à l'Église et à elle seule. Aucun laïc n'a interféré dans la réception des procès-verbaux et des messages. On distingue la secte de l'Église au sens non théologique du terme, c'est ce que dit le dictionnaire des mots de la foi chrétienne, voyez, en ce que la secte reconnaît une autre révélation nouvelle de celle dont témoigne l'Écriture sainte et qui est affirmée nécessaire pour comprendre celle-ci. Eh bien, ma femme m'a appris que avant-hier un petit groupe de témoins de Jéhovah se promenait dans notre quartier. Eh bien, effectivement, c'est une secte. Ils ont reçu une révélation par un fondateur américain qui a transformé les évangiles et qui émettent donc un message totalement différent et qui n'a rien à voir avec la Sainte Écriture. De plus, il faut savoir que la secte limite son salut à ses propres membres. Or, l'Église, et on le constate en particulier dans le dernier chapitre de l'Apocalypse de Saint Jean, ne limite pas du tout le salut à ses propres membres. Le jugement tel qu'il est donné par le Tout-Puissant à la fin n'est pas du tout basé sur l'appartenance à une église, mais sur nos actes. J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, vous êtes venu me visiter, etc.
On pourrait même aller un petit peu plus loin et dire que... Très curieusement, l'Église privilégie l'idée, enfin laisse en tout cas entrevoir l'idée qu'il est plus facile d'être sauvé si on n'est pas catholique que si on l'est.
Elle laisse en tout cas la liberté de conscience, et j'ai pu remarquer le formidable interview du pape dans le Figaro magazine il y a quelques jours, qui fait une remarquable observation sur la liberté de la conscience, même quand l'individu s'enfonce dans le mal, à charge pour lui de payer évidemment ce qu'il décide de faire.
Ce que je voulais dire, c'est qu'on nous dit que quand un primitif pêche sans avoir conscience du péché, parce qu'il n'a pas reçu
il est moins responsable.
La bonne nouvelle, eh bien, il n'est pas il n'est pas puni en quelque sorte. Il est moins responsable de sa situation qu'un catholique qui
absolument
va volontairement dans le péché.
Oui. Et tout à l'heure, vous parlez de l'islam. Eh bien, vous voyez justement, quand on lit le Coran de près, on se rend compte, sans faire aucun commentaire tendancieux, que le Coran ne limite son salut qu'à ses propres membres, qu'aux islamistes qui respectent le Coran, et pas du tout à ceux qui ne combattent pas dans le sentier de Dieu. Et il faut bien voir que, en ce sens de la définition de la secte, les membres de l'islam sont une secte. Absolument. Ce sont des gens qui ont complètement transformé les Écritures. Et qui s'éloignent complètement, non seulement de la loi du talion, qu'ils aggravent en condamnant à la GN tous ceux qui sont contre eux, mais qui en plus émettent des idées qui sont contraires à ce que nous avons entendu avec Jean-Claude Barrot dernièrement à la télévision dans l'émission sur l'islam avec Jean-Marie Cavada, n'est-ce pas ? Puisque ce sont des déclarations faites par les sourates qui disent elles-mêmes que les croyants... Je vais vous lire le texte exact pour ne pas interpréter à tort. Hein. Dieu n'aime pas les transgresseurs, tuez-les où que vous les trouviez. Tuez-les, c'est le salaire des incroyants. C'est la sourate numéro 2, verset 190. Hein.
C'est dans quelle traduction, ça ?
Alors,
c'est
la traduction,
très important de donner
bien sûr, c'est la traduction de l'arabe de Jean Grosjean, du Coran, chez Philippe Lebeau, éditeur. Et je vous signale que la revue Jeune Afrique dit « Souvent, une traduction est une trahison, car chaque langue a son génie propre. Seul un poète pouvait donner aux francophones le Coran tel qu'en lui-même. Ouais. » Et de plus, cette traduction a été approuvée comme étant celle qui se distingue pour la première fois parmi les différentes traductions déjà publiées en langue française, par le soin extrême apporté au style de la rédaction et par la fidélité au sens. Et ça, c'est déclaré par l'Institut de Recherche Islamique d'El Azhar. Vous voyez ?
Donc, je voulais qu'il soit bien précis, bien clair, que le texte que vous venez de lire n'est pas contestable.
Absolument pas. C'est au contraire. Les musulmans disent que c'est la première fois qu'une traduction est absolument impeccable. Et je peux même vous dire, là, par exemple, on peut dire que il y a un sectarisme. Quand j'entends parler d'islam à la française, eh bien, je me demande un petit peu de quoi on parle, parce que les islamistes ne veulent pas en entendre parler. Eux, les islamistes fondamentalistes veulent qu'on respecte le Coran de A à Z. Et là, nous le retrouvons ici d'une façon très spécifique, n'est-ce pas, quand il est dit que ne vous faites pas des amis, ne prenez pas d'amis chez eux, avant qu'ils n'émigrent dans le sentier de Dieu, les infidèles, s'ils tournent le dos, saisissez-les, s'ils tournent le dos, tuez-les où que vous les trouviez, les infidèles sont ceux qui disent Dieu, c'est le fils de Marie. C'est clair, vous voyez, hein. Et donc, et encore dans la sourate 5, il est dit au verset 17, « Les chrétiens, certes, ils sont incroyants, ceux qui disent « Dieu, c'est le fils de Marie ». Voilà le type même de la secte, n'est-ce pas, que les laïcs ou ceux qui prétendent faire la neutralité des religions en France devraient examiner de près, parce que dans ces textes-là, de traduction du Coran, nous avons une incitation à la séparation des religions, et même, on peut le dire, à la xénophobie, puisqu'il est dit que les juifs et les chrétiens, il ne faut pas s'en faire des amis.
Voyez. Faudrait peut-être
alors,
que
revenons à Dossulé.
Il faudrait peut-être faire un service de ce livre, de cette traduction du Coran, avec surlignage phosphorescent à Monsieur Pasqua, qui veut faire un concordat avec l'islam.
C'est évident, parce que il y a une démagogie absolument invraisemblable. Tous les Français qui veulent savoir ce que c'est que l'intégration feraient bien de commencer par lire le Coran. Là, ils changeraient complètement d'avis tout de suite. Et sans faire aucun sectarisme et aucune traduction tendancieuse, il est certain... Je lisais un petit article de Jean Daniel, n'est-ce pas, dans le Nouvel Obs, qui disait « N'oublions pas que l'islamisme de quelques-uns n'est pas l'islam de tous ». Pour ceux qui n'en sont pas convaincus, je leur conseille cette émission religieuse du dimanche matin où un merveilleux érudit s'attache à dégager d'un Coran réinterprété des leçons d'humanisme. Mais c'est complètement ridicule. On ne peut pas réinterpréter le Coran. Il existe. Point, c'est tout. Donc, en ce qui concerne le message de Dossulé, par contre, il faut bien savoir que le critère essentiel permettant de discerner sans erreur l'authenticité du message de Dossulé comme venant du Christ est que chaque parole rapportée dans les procès-verbaux recueillis par le prêtre, l'abbé Lorsay et les trois religieuses, chaque parole est dans la ligne parfaite de l'enseignement des évangiles et de l'Église.
Alors, monsieur Stiglitz, vous venez d'évoquer les procès-verbaux dont il faut rappeler, parce que je crois que c'est très important, qu'ils ont été pris sous la dictée de madame Aumont, par un prêtre et trois religieuses, et qu'ils ont été dactylographiés. Et une auditrice nous dit, est-ce que ces procès-verbaux ont été conservés, répertoriés, est-ce qu'ils sont accessibles?
Alors, vous pouvez les trouver dans le livre que j'ai fait, puisque il vient de paraître aux éditions du Rocher sous le titre « L'avenir avant l'an 2000 ». Ce livre se partage en deux parties. La première partie, c'est le message intégral recueilli par l'Église. Et je dis bien par l'Église. Et je signale à ceux qui voudraient mettre la division et l'obstruction dans une forme de sectarisme que j'ai rencontré le nonce apostolique la semaine dernière, ce n'est pas un secret, et il m'a dit « Ne vous occupez pas des polémiques, ne vous occupez pas des critiques, que cela vienne même de l'évêque, continuez votre chemin, puisque le pape Paul VI a lui-même, dès 1966, justement confirmé le 14 octobre 1966, le décret Madeleine de la Sacrée Congrégation pour la propagation de la foi, permettant la publication des écrits relatifs aux apparitions surnaturelles, même si elles ne portent pas le nihil obstat de l'autorité ecclésiastique. »
Oui, alors ça, vous le dites, il s'agit d'un texte de Paul VI, mais ce que disent les traditionnalistes, dont je suis d'ailleurs, c'est que c'est un texte d'une dangerosité extraordinaire, puisque c'est un texte qui ouvre la possibilité à n'importe quelle élucubration de se répandre dans le peuple catholique à la vitesse d'un feu de broussailles, et sans aucun contrôle de l'autorité enseignante. Oui. Et d'ailleurs, un auditeur nous dit, ici, je crois que c'est un auditeur, dit... Écoutez, une fois pour toutes, Dossulé, c'est tout simplement destiné à accréditer le Concile Vatican II et donc à nous préparer à l'adoption de la religion d'Assise. Point à la ligne.
Pas du tout. Il faut bien savoir que si c'était vrai, il n'y aurait pas d'obstruction de la part de l'évêque actuel. J'ai fait une lettre ouverte à Monseigneur Picant, je lui ai envoyé une lettre ouverte, j'ai envoyé à la presse, et je peux vous dire qu'elle a été publiée là-bas dans différents journaux, et que dans cette lettre, je lui proposais une réunion avec les journalistes, en public, dans laquelle nous, les journalistes poseraient toutes les questions qu'ils voudraient, et nous leur répondrions en face à face, sous le contrôle autorisé de l'évêque du lieu. L'évêque n'est pas du tout à la solde d'un courant de pensée style Vatican II progressiste, parce que si c'était le cas, voyez, si c'était le cas, Monseigneur Badré, qui a donné l'ordre de recevoir ces procès-verbaux, de les taper à la machine, ne les aurait pas mis sous scellé. La première chose, si c'était un complot Vatican II progressiste démolissant la tradition de l'Église, la première chose qu'il aurait fait, c'est au contraire de les publier, de les faire connaître, et d'informer toute la population. Or, dès le début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'ordre à l'abbé Lorsay de se réunir, non pas, comme le Christ l'avait demandé à Madeleine, et de faire la prière sur la haute butte, là où était apparue six fois cette immense croix glorieuse qu'elle appelle le signe du Fils de l'homme et qui annonce le retour proche du Christ et surtout la grande tribulation, mais il a donné l'ordre, l'évêque, à l'abbé Lorsay de s'enfermer à clé avec Madeleine Aumont, les trois religieuses, de faire le chapelet chaque jour enfermé dans cette chapelle de l'école Saint-Joseph, qui n'est donc pas l'église paroissiale, et de n'en dire rien à personne. Et c'est seulement Gérard Cordonnier, voyez, donc l'ami de Jean Guiton, qui a pris la liberté et, moi je le dis, qui a eu le courage de faire des polycopies du message auquel il avait accès, dans le plus grand secret, n'est-ce pas, et de commencer à les faire circuler juste avant sa mort. Mais vous pensez bien que...
Mais alors, l'authenticité n'a jamais été contestée par le clergé, par l'épiscopat.
L'authenticité local, des copies. Absolument pas. Ah, jamais de la vie. Non, si vous voulez, moi quand j'ai été voir le Monseigneur Picant, j'ai été voir Monseigneur Badré dernièrement, lui, il ne veut absolument pas dire ni oui ni non, il veut même pas se prononcer. Il dit, mon successeur est responsable. Quand vous allez voir Monseigneur Picant, le nouvel évêque, il vous dit, c'est mon prédécesseur qui est responsable, c'est lui qui a fait l'enquête diocésaine. En 1983, comme je vous l'avais raconté l'autre jour, nous sommes allés à Rome, nous avons fait donc nous avons eu un entretien pendant 3 jours avec le père Gréco, qui était le conseiller personnel de Jean-Paul II et qui était conseiller pontifical pour le conseil de la famille au Concile Vatican II, et il nous avait dit, eh bien, vous allez demander une enquête canonique. Cette enquête a été faite non pas sous forme canonique, mais sous forme diocésaine d'information en 84-85, ça a été un trucage. Parce que moi, j'ai été interrogé pendant 3 heures par Monseigneur Perrault ici à Paris, et je peux vous dire que tout était truqué d'un bout à l'autre. Rien n'était... Quand je dis truqué, je ne veux pas dire que c'était fallacieux, mais rien n'était fait pour rechercher la vérité du message. Il faut bien savoir que quand on parle de secte, là, on ne peut pas parler de secte. Il ne s'agit que de l'actualité des évangiles, mais... Le Christ vient informer que la grande tribulation est pour notre génération avant la fin du siècle. Et pour bien nous informer, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Jean-Paul II il y a très peu de temps au sujet des messages de Fatima. Vous voyez, il a bien répété dernièrement que ces messages seraient confirmés dans la fin de ce siècle. Et ce que le Christ venait avant tout dire à toute l'Église, c'est au contraire, d'abord, premièrement, remettre les gens devant la réalité, l'authenticité de l'existence d'une présence réelle divine à la place du Saint-Sacrement. Parce que, qu'on ne vienne pas me dire qu'il s'agit de Vatican II, où le Saint-Sacrement, ça a toujours été la présence réelle depuis l'établissement de l'Eucharistie le jour du jeudi de Pâques.
Hein. Je dirais même que jusqu'à Vatican II, il était quand même assez difficile de trouver des prêtres qui croyaient pas à la présence réelle. Alors que maintenant, c'est pas nécessaire d'aller très très loin.
Oui. Alors là, on pourrait peut-être dire 2 mots, parce que toutes les apparitions du Christ, sauf la toute première, ont eu lieu soit à la place du tabernacle dans la chapelle de l'école Saint-Joseph, une fois dans l'église paroissiale, soit à la place de l'ostensoir, c'est-à-dire l'Eucharistie présenté dans l'ostensoir sur l'autel le premier vendredi du mois. Tout s'est passé le premier vendredi du mois dans l'année 73-74, et tout a commencé le jour de la première apparition de Paray-le-Monial, du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial, 3 siècles jour pour jour, le 27 décembre 1973, alors que ça avait commencé le 27 décembre 1972, alors que ça avait commencé le 27 décembre 1673 à Paray-le-Monial. Le Christ vient et il recommence à donner à l'humanité ce pourquoi il était apparu à Paray-le-Monial, à Sainte-Marguerite-Marie.
Excusez-moi, oui, il faudrait que vous répétiez les dates parce que il y a eu une confusion.
Oui, alors.
Paray-le-Monial,
c'est le 27 décembre 1673, première apparition du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie. Donc là, le Sacré-Cœur était apparu pour sauver la France de l'hérésie et en même temps des menaces de guerre et de révolution qui allaient emporter la monarchie un siècle plus tard. Et il était demandé au roi Louis XIV, dit au fils aîné de mon Sacré-Cœur, etc., que je veux régner dans sa maison, être peint sur ses étendards, etc. Et donc, le roi, par ses conseillers religieux ayant été dissuadé d'obéir à la demande de Paray-le-Monial, n'a pas accompli cette mission. Et c'est Louis XVI qui, de son sang, a signé ce serment dans la prison du Temple. Le Christ vient dans une chapelle à la place du Saint-Sacrement et tout commence le jour de la fête de Saint-Jean l'Apôtre. Et il annonce à l'humanité, en des paroles quand même qui sont pleines d'amour, parce que c'est pas un message de catastrophe, un message hérétique du tout. Le Père Manceau, je le disais tout à l'heure, a relevé 120 citations de l'Écriture et 19 citations en latin de la liturgie grégorienne.
Citations qui sont rapportées au moment même où elle reçoit les messages par Madame Aumont, est noté par le prêtre et les religieux.
Exactement. C'est-à-dire que Madeleine était en prière avec le prêtre et les religieuses. Elle ne savait jamais quand allait avoir l'apparition, parce qu'il n'y en a eu que 50 entre 1972 et 1982. Il y a eu 50 procès-verbaux. Mais en 10 ans, il y a 3650 jours. Or, il ne savait pas à l'avance, sauf dans la neuvaine de Noël 1975 et le 4 juillet 1975 qui avait été annoncé à l'avance.
Eh bien. Et donc cette femme recevait, alors vous dites, des citations de l'Écriture et des citations en latin.
Oui, non, attention, le latin, les phrases en latin n'ont été données que dans la première année pour bien montrer au clergé, à l'évêché, etc., que Madeleine était incapable de les prononcer. Par exemple, les personnes qui contestent, elles feraient bien de savoir que avant, vous savez, c'est très grave de contester un message comme ça. Moi, je me mettrais pas à contester une parole venant soi-disant de Dieu sans être sûr de ma contestation et de la validité de ce que je dis. Parce que faisons attention, c'est pas Jean Stigler qu'on va critiquer. Là, c'est l'identité du Christ même qui est passée en jugement par un tiers qui n'a peut-être lu qu'en diagonale ou un article dans Le Pèlerin ou dans Famille Chrétienne rapportant des balivernes. Il faut bien savoir que les balivernes et les rumeurs, les fausses rumeurs disant escroquerie commerciale, secte, profit scandaleux, etc., n'ont fait que se succéder sans arrêt. Je peux vous dire que je m'occupe depuis 12 ans de cela. Je n'ai fait que ramasser des calomnies les unes après les autres. Mais on s'y habitue très bien. Et puis quand on reprend l'Évangile, on s'aperçoit qu'il faut se réjouir. Bienheureux êtes-vous si on dit toutes sortes de mal de moi, de vous à cause de mon nom. Eh bien, on peut dire que, je peux vous garantir que, en même temps, malgré toutes ces calomnies et toutes ces rumeurs, on reçoit sans aucun doute une aide formidable. Et donc, dans ce message de Dozulé, qu'est-ce que vient annoncer le Christ? D'abord, il se présente à la place du Saint-Sacrement. Il faut bien savoir que le Saint-Sacrement, pour ceux qui nous écoutent et qui doutent du Saint-Sacrement, ce n'est pas n'importe quoi. Vous voyez, les grands mystiques stigmatisés comme Saint François d'Assise, Saint Jean de la Croix, Catherine Emmerich, Thérèse Neumann, Marthe Robin, que j'ai eu le bonheur de connaître quand j'avais 21 ans à Lyon, eh bien, ont vécu des années sans boire, sans manger, en ne se nourrissant que de cette hostie consacrée, le Saint-Sacrement, véritable nourriture spirituelle. Et il y a un phénomène, on a le temps d'en parler avant de parler de Dozulé directement, qui est inexplicable et que tous les prêtres devraient raconter, qui s'est passé en 1971 et qui a été constaté dans des analyses scientifiques incontestables. En effet, depuis le 8e siècle, à Lanciano, en Italie, existe un reliquaire où se trouve une hostie dite miraculeuse. C'est-à-dire que, en célébrant la messe, il y a donc 11 siècles, un prêtre vint à douter de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Et sous ses yeux, l'hostie consacrée devint une tranche de chair et le vin du sang qui se coagula en 5 caillots. Vous voyez, je dis ça pour ceux qui doutent de la présence réelle. Parce que dans les sondages qui ont été faits dans Paris Match et autres, on s'est aperçu qu'il y avait un nombre incroyable de catholiques qui n'y croyaient plus du tout. Hein. Et même de prêtres hein, qui disaient que c'était symbolique. Hein. Eh bien, les analyses de cette hostie gardée dans un reliquaire depuis le 8e siècle ont été effectuées le 18 novembre 1970 et le 4 mars 1971 par les professeurs Linoli et Bertoli de la faculté de médecine de Sienne en Italie. Ils ont conclu, après examen de l'hostie et du sang conservé depuis le 8e siècle, cette chair, sans aucun additif chimique, a traversé 12 siècles sans aucune modification, bien qu'exposée à l'action d'agents physiques, atmosphériques et biologiques. Ce fait est scientifiquement inexplicable. Et ils ont remarqué, au microscope, cette chair est une tranche de muscle cardiaque humain issu du myocarde. Alors vous savez que le myocarde, bon, c'est une des trois enveloppes du cœur, c'est le muscle cardiaque. Scientifiquement, ça veut dire quoi ? Scientifiquement, ça veut dire que pour la première fois depuis 20 siècles, des professeurs de médecine ont constaté qu'une hostie miraculeuse devenue extraordinairement par un fait surnaturel un morceau de chair cardiaque, l'Eucharistie est un véritable morceau du Sacré-Cœur. De plus, ils ont remarqué que son obtention par dissection supposerait une habileté exceptionnelle du praticien aujourd'hui, au XXe siècle, avec des instruments ultramodernes. Et en ce qui concerne le sang, eh bien, ils ont vu que ce sang était de groupe AB, qu'il présente un diagramme correspondant à celui d'un sang qui aurait été prélevé sur un humain dans la même journée que celle de l'examen. Et ça, c'est quand même inexplicable. Hein, la fraîcheur de ce caillot, en ce qui concerne le diagramme, est exactement la même que si ce sang avait été prélevé le même jour. Or, cela s'est passé il y a 11 siècles. Vous voyez ? Et ce qui est inexplicable également, c'est que les 5 caillots de sang sont de taille inégale. Donc, normalement, ils pèsent des poids différents, puisqu'ils sont de volume inégal. Or, ils pèsent tous le même poids, chacun séparément, alors qu'ils sont d'un volume différent, et tous ensemble, mis dans le plateau de la balance, ils pèsent le même poids identique que chacun séparément.
Ah, c'est
invraisemblable. Eh bien, scientifiquement, ça a été vérifié par ces deux professeurs, Linoli et Bertoli, de la faculté de médecine de Sienne, donc ces deux jours-là. Donc, pour bien rappeler aux catholiques qui douteraient que le Saint-Sacrement, les apparitions du Christ à Dozulé, sont centrées avant tout sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie.
Alors, on va parler maintenant, si vous voulez, il nous reste une vingtaine de minutes, puisqu'après nous allons évoquer l'Espagne contemporaine avec M. Chiriquès de Olmeta. Je voudrais vous lire une double objection ou une double contestation qui nous est adressée par un auditeur qui nous dit « Lors de la dernière émission sur le sujet de Dozulé, vous avez déclaré que Rome n'avait pas donné son opinion. Ceci est faux. Une enquête canonique a été demandée par l'ancien évêque de Bayeux, Lisieux, Mgr Barbet, et le résultat a été négatif et publié par ses soins. »
Non, c'est faux. Comme je viens de le dire, il n'y a jamais eu d'enquête canonique. Il y a eu une enquête diocésaine d'information. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête canonique ? C'est une enquête faite par différents experts, différentes commissions d'experts, n'est-ce pas, qui se réunissent. Il y a une expertise médicale, il y a une expertise de théologien, etc. Bon, on vérifie les témoignages de chaque témoin. Les témoins n'ont jamais été interrogés là. On m'a interrogé personnellement, comme différentes autres personnes. Nous avons eu un questionnaire de 25 questions. On nous a fait jurer sur l'évangile au début qu'on ne dirait pas un mot des 25 questions. Au bout de 3 heures d'interrogatoire, on m'a fait jurer sur l'évangile que je ne dirais pas un mot des réponses aux 25 questions que j'avais traitées. Et oui, absolument, ça a été fait comme ça, en faisant jurer au début et à la fin. Et il n'y a jamais eu dans ces 25 questions un seul interrogatoire sur le contenu spirituel du message. Or, une enquête diocésaine d'information n'a rien à... C'est une petite enquête. D'ailleurs, Monseigneur Piquant, le 17 septembre 1988, m'a reçu pendant une heure. Nous avons examiné toutes les possibilités de tricherie et à la fin, ne savant plus que répondre, il m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je n'arrive pas à y croire.
C'est tout. Et c'est vrai, il faut reconnaître que je suis un peu dans la situation de cet évêque. Quand je vous entends, je suis tout à fait intéressé. Je dis, mais c'est quand même très, très troublant, très frappant et tout. Et puis quand je reviens à la nature même des faits, je me dis, j'arrive pas à y croire, quoi. C'est tout, voilà.
C'est-à-dire que ça. Vous comprenez, je vais vous dire, les apôtres, eux, après la mort du Christ, n'arrivait pas à y croire. Oui, il a fallu qu'il voie le poisson grillé que le Christ avait demandé disparaître dans sa bouche pour être certain qu'il était vraiment vivant. Mais un homme crucifié, vidé de son sang, enfermé dans un tombeau, il n'imaginait pas qu'il était vivant. Et sur le bord du lac de Tibériade, à la troisième apparition, il faut peut-être savoir que les catholiques ignorent complètement que l'Église a été fondée quand ? Quand Pierre est-il devenu le pape ? Quand est-il devenu chef de l'Église ? Pierre, m'aimes-tu plus que ceci ? N'est-ce pas ? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu ? Paie mes agneaux. Eh bien, voyez, c'est à ce moment-là qu'il est devenu... P-A-I-S, oui. S, et non pas P-A-I-X. Ça veut dire fait paître. C'est là, quand il répare le triple reniement de Pierre, que le Christ donne la primauté à Pierre et que Pierre devient vraiment... C'est donc dans une apparition, au cours de la troisième apparition sur le lac de Tibériade, que le Christ a fondé sur Pierre la papauté. Et voilà. Donc, et là, en particulier, il s'agit d'un message...
Je voudrais lire l'autre contestation de notre auditeur. Deuxièmement, vous avez dit que le cardinal Ratzinger avait dit que le troisième message des apparitions de Fatima annonçait des bouleversements mondiaux par le fait de guerre et autres violences. Alors, il n'en est rien. Ratzinger a lui-même démenti cette interprétation du message, encore secret, dans un livre intitulé « Entretien sur la foi » paru dans les dernières années. Chez Fayard.
D'accord. Et bien, c'est très simple à répondre parce que justement, en 1984, donc après... Vittorio Messori, qui vient donc d'être à l'origine du dernier livre du pape Entré dans l'espérance, n'est-ce pas, a eu un entretien avec le cardinal Ratzinger. Et il lui a posé cette question. Avez-vous lu ce qu'on appelle le troisième secret de Fatima, celui que sœur Lucie a envoyé au pape Jean XXIII, qui n'a pas voulu le révéler et qui a ordonné de le déposer dans les archives du Vatican? Réponse du cardinal, oui, je l'ai lu. Le cardinal continue, en 1984, donc après la publication du livre dont vous parlez, « Si on ne le publie pas, du moins pour le moment, c'est pour éviter de voir confondre la prophétie religieuse avec le sensationnalisme. En effet, dit le cardinal Ratzinger, l'annonce de châtiment, même conditionnel, tel que guerre nucléaire, donc il s'agit bien d'une guerre nucléaire dans le message de Fatima, et des bouleversements cosmiques, les cataclysmes annoncés par Saint Marc, les puissances des cieux seront ébranlées. Si cette révélation du troisième secret, disait le cardinal, était faite sans préparation, cela pourrait provoquer le contraire de l'effet recherché. Au lieu de la conversion engendrant la sérénité, on sèmerait la panique et le désespoir. Vous voyez, tout ça, c'est dans le livre « L'avenir avant l'an 2000 », donc que Le Rocher vient de publier. Tout cela, vous le trouverez dedans. Toutes les questions que vous venez de poser se trouvent en 70 questions-réponses dans ce livre. Et les gens peuvent avoir une documentation absolument complète sur l'opinion de l'évêque, l'évêque Monseigneur Badré, l'évêque Monseigneur Piquant, la position du pape, son confesseur, la position du cardinal Ratzinger, etc. Mais... disait le cardinal, les choses contenues dans ce troisième secret correspondent à ce qu'annoncent les Écritures et sont confirmées par beaucoup d'autres apparitions mariales, à commencer par celle de Fatima, dans ce qu'on en connaît. Conversion, pénitence sont les conditions essentielles du salut pour éviter la catastrophe.
Mais comment expliquez-vous qu'un message, je dirais, aussi peu original, parce que... l'affirmation de la présence réelle, on peut pas dire que ce soit révolutionnaire.
Ah non, mais...
oui. L'appel à la conversion, enfin, c'est des choses qu'on a entendues, si j'ose dire, d'une façon un peu,
répétée,
grossière, mais on a entendu ça 100 fois dans toutes les apparitions.
Exactement.
Dans... Alors, comment expliquez-vous que des choses aussi simples fassent l'objet d'une telle hostilité de la part du clergé, d'une part, de la part même des auditeurs, puisque, enfin des auditeurs, de la part des catholiques, j'ai des réactions là qui sont vives, j'ai des réactions tout à fait favorables, je m'empresse de le dire, c'est partagé, hein. Des gens qui disent, j'ai lu le livre, il est formidable, pourquoi les médias n'en parlent-ils pas plus, bravo, merci d'avoir reçu ce monsieur, c'est magnifique, enfin, etc. Puis des gens qui disent, les informations que vous faites passer actuellement relèvent de la désinformation, contrairement à ce qui se fait habituellement sur Radio Courtoisie, j'en suis désolé pour ça. Donc c'est pas quelqu'un d'hostile, mais c'est quelqu'un qui visiblement, pas hostile à l'émission.
Oui, mais cette personne, je voudrais lui poser une seule question. Avant de dénigrer, est-ce qu'elle a lu le message en question et est-ce qu'elle a lu le livre qui permet d'avoir une documentation complète? Ou bien est-ce qu'elle s'en réfère simplement au petit article du Pèlerin qui dénigre tout sans rien avoir lu et qui, simplement à l'information passée dans la revue Bulle de l'Épiscopat?
C'est une question à laquelle cet auditeur ou cette auditrice ne peut pas répondre puisqu'il n'a pas l'antenne.
Alors,
mais
vous me demandez quelle est la différence.
Pourquoi
ces apparitions? Pourquoi le Christ?
Non, la première question, pardon, comment expliquez-vous cette hostilité? Convergence
bien
de
entendu.
Réactions hostiles.
Mais écoutez, Serge Beketsch, représentez-vous ce qu'a été la vie du Christ il y a 2000 ans. Pendant 3 ans, il n'a pas cessé de guérir, d'ouvrir les yeux des aveugles, de guérir les boiteux, de ressusciter les uns et de consoler les autres. Et au moment de sa mort, au moment du jugement, tout le monde est parti. Et qui l'a fait condamner? Qui? Mais les sadducéens, c'est-à-dire la classe sacerdotale, et les pharisiens, c'est-à-dire les intégristes de l'époque. Et il faut bien savoir que entre la lettre et l'esprit, le Christ a toujours choisi l'esprit. Vous voyez, les pharisiens possédaient la lettre, la tradition, la loi. Bon. Mais, lui, il a préféré l'amour de Marie-Madeleine, qui au défi de la loi, au défi des traditions, au défi des amis de Simon le pharisien, traverse la salle des hommes et vient lui verser sur la tête ce parfum qui valait 300 deniers, c'est-à-dire l'équivalent du salaire d'un homme pendant 1 an. Eh bien, Marie-Madeleine n'a pas eu peur. La prostituée, elle, il lui dit « va, ne pêche plus », il ne la condamne pas, tout le monde voulait la condamner, n'est-ce pas? C'est parce qu'il est intervenu et qu'il a commencé à écrire sur le sable ce qu'ils avaient fait qu'ils se sont arrêtés. Mais au pied de la croix, qui y avait-il? Les fervents du temple? Mais il n'y avait personne. Même les apôtres, il n'y en avait pas un seul à part saint Jean. Tous étaient partis. La tradition nous rapporte qu'il y avait 17 saintes femmes. Il n'y avait pas un seul homme en dehors de saint Jean. Et les critiques, pour nous, ne sont que la preuve qu'en fait, le Christ, où qu'il se présente, est toujours dénigré. Mais il faut savoir quand même que, vous voyez, à travers les obstacles, la vérité fait toujours un jour triomphe, tôt ou tard. Et moi, qui ai examiné ce message en toute objectivité pendant 12 ans, et qui ai auparavant, pendant 20 ans, analysé beaucoup de messages, puisque dès 21 ans, j'ai été passionné au cours d'une rencontre avec Marthe Robin par ces phénomènes mystiques. J'ai eu la chance de la connaître dans sa petite chambre pendant quelques minutes, parce qu'on la voyait pas longtemps, mais pour moi ça a été la preuve que l'Eucharistie c'était pas quelque chose, mais que c'était quelqu'un. Vous voyez, et ce message de Dozulé, pour moi, vient d'une femme qu'il a reçue sans rien comprendre du latin, sans être incapable de prononcer des paroles de l'Écriture. Elle n'a pas un livre chez elle. C'est l'Église, pour la première fois depuis 2000 ans, qui reçoit un message capital. Et pourquoi vous croyez que c'est depuis des années qu'on annonce la grande tribulation de l'Évangile du chapitre 24 de Matthieu avant la fin du siècle? Cette tribulation dont il est dit malheur à celles qui enfanteront, à celles qui seront enceintes et qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ça n'arrive pas un jour de sabbat ou un jour ou en hiver. Tout cela n'est à rapprocher du troisième secret de Fatima, c'est vrai, mais dans le secret de Fatima, le troisième, celui dont l'extrait diplomatique avait été rédigé par Paul VI et transmis aux grandes nations nucléaires à Genève, disait bien que cela arriverait dans la deuxième moitié du XXe siècle. Jean-Paul II vient de dire il y a quelque temps que ces messages de Fatima seraient confirmés, n'est-ce pas, dans cette deuxième partie du XXe siècle. Or, nous sommes en 94. Les gens ne trouvent pas important, bon, de s'arrêter à l'Évangile, c'est pas nouveau. Mais ce qui est important, c'est que le Christ Christ vient nous dire d'une façon très nette, comprenez bien ceci, les jours qui précédèrent le déluge, les gens ne se doutaient de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous, mais aujourd'hui, en 1975, c'était dit le 4 juillet, voyez, c'était une lettre dictée à Paul VI. Vous vivez le temps où je vous disais, il y aura sur cette terre des bouleversements de tout genre. L'iniquité qui est cause de misère et de famine, eh bien, on la voit, la corruption, partout. L'iniquité, l'injustice, la mafia qui s'empare de tous les leviers, n'est-ce pas? Les nations seront dans l'angoisse, des phénomènes et des signes dans le ciel et sur la terre. Aussi tenez-vous prêts, car la grande tribulation est proche, telle qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Je vous le dis, il ne l'a jamais dit, ça, le Christ, cette jeune génération de 1975 ne passera pas avant que cela n'arrive. Mais ne craignez rien. Vous voyez, la secte fait peur. Là, le Coran nous dit, les incroyants seront pour la géhenne. Là, le Christ dit le contraire, il dit, ne craignez rien. Car voici que s'élève dans le ciel le signe du Fils de l'homme, que Madeleine a vu briller de l'Orient à l'Occident. Vous voyez, dans l'Écriture, à la fin du chapitre 24, il nous est dit, donc, après l'annonce de ces guerres, de ces tribulations, etc., l'annonce de la grande tribulation, « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. » Mais c'est un événement considérable dans l'Église catholique que le Christ apparaisse à la place du Saint-Sacrement, dicte uniquement à des religieux par l'intermédiaire d'une voyante qui s'appelle Madeleine, comme Marie-Madeleine, n'est-ce pas, le premier vendredi du mois, comme apparaît le monial, et annonce que cet événement de l'apparition de la croix glorieuse, donc du signe du Fils de l'homme, n'est pas pour le 21e, le 22e ou le 23e siècle, mais pour maintenant, avant la fin du siècle. Alors ça, c'est quand même intéressant.
Dans le message que vous venez de lire, il y a la phrase « ne craignez rien ». N'ayez pas peur, ne craignez pas. Je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à une des réponses que donne le pape dans son livre qui vient de paraître, là, à son interlocuteur, qui lui demande ce qu'il pense de l'enfer. Et le pape répond, si je me trompe pas, qu'en gros, il pense que l'enfer existe, mais qu'il n'y a personne.
Je n'ai pas lu cette phrase exacte.
C'est pas exprimé, mais
oui, non, j'ai quand même lu une phrase de Jean-Paul II qui disait « Les éducateurs se sont égarés, les prédicateurs se sont égarés » et il parlait de l'enfer en disant « On ne veut plus parler de l'enfer ». Jean-Paul II a au contraire fulminé ceux qui ne voulaient pas parler de l'enfer. Et d'ailleurs, dans le secret de Fatima, justement, la première partie du secret de Fatima est le dévoilement de l'existence de l'enfer.
C'est pour ça que j'en parlais, parce que... Oui. J'avais l'impression que le texte que vous veniez de lire s'inscrivait dans une espèce de mouvement qui est très contemporain et qui est un mouvement de négation du châtiment éternel.
Ah, pas du tout. Au contraire. Là, le Christ dit bien « Dites aux mourants repentants que plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. » Il dit bien « Heureux celui qui n'est séduit que par le Dieu suprême. » Voyez, il pardonne aux plus grands pécheurs au dernier instant de sa vie. Ça ne veut pas du tout dire qu'il pardonne à tous les pécheurs. Là, il le dit dans la 12e apparition. Ça a été donné le 2 novembre, le jour des morts, n'est-ce pas? Et le Christ annonçait justement Gog et Magog. Son nombre est incalculable. Eh bien, Gog et Magog, c'est l'annonce de l'invasion par les troupes de Gog, et annoncé par Ézéchiel au chapitre 38, qui prophétisait l'invasion d'Israël et en fait de toute l'Europe. De toute l'Europe chrétienne, par Gog, prince de Méchec et de Tubal. Et Méchec, c'est Moscou, comme le disait le chanoine Crampon, en partant des Septante et de la traduction des auteurs byzantins et arabes. Eh bien, c'est un peuple qui vit au nord de la chaîne du Taurus, sur les bords de la Volga, et c'est la Russie. Comme l'annonce la sœur... Et alors, là, vous me dites, l'enfer n'existe pas. Ben, je peux vous dire que le Christ est très net. Il dit, Gog et Magog, son nombre est incalculable. Quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas. Et il dit ceci, tous seront jetés dans le feu pour les siècles des siècles. Il parle de ceux qui viendront contre l'Église, qui massacreront les prêtres, les cardinaux, les évêques, comme c'est annoncé dans le message, et qui feront la grande tribulation de l'Église, qui feront la grande persécution de la chrétienté, et Là, il dit « Heureux celui qui n'est séduit que par le Dieu suprême ». Et c'est là, tout à l'heure, vous parliez du schisme dans l'Église. Je peux vous dire que le schisme que vous avez annoncé est annoncé dans le troisième secret de Fatima. On le retrouve dans l'Église ici, dans le message de Dozulé ici, quand le Christ montre bien que la nouvelle évangélisation sera faite par des jeunes qui parleront des langues inconnues d'eux. Et il dit aux prêtres, vous les prêtres, hommes de peu de foi, pourquoi doutez-vous? Ceux qui viendront en mon nom parleront des langues inconnues d'eux. Parce que, vous voyez, vous dites, bon, c'est vrai, on parle de l'évangile, c'est toujours la même chose le dimanche, etc. Mais moi je dis toujours aux jeunes, passionnez-vous pour ce livre, pour l'annonce de ce message, parce qu'il vous annonce que vous soyez dans la maladie, le chômage, les ennuis, le débine en ce moment à cause de tout ce qui se passe, eh bien, soyez toujours dans la joie, nous dit le Christ dans la 11e apparition. Ne vous lamentez pas sur le cataclysme général de cette génération, car tout ceci doit arriver. Mais ce que le Christ vient annoncer, c'est justement un message d'espoir disant, bien que vous êtes dans une crise mondiale très grave qui va déboucher sur une guerre nucléaire, puisqu'il dit Satan séduit les esprits, il rend capable de détruire l'humanité en quelques minutes. Ne vous inquiétez pas, car il le promet, je vous le dis, vous chefs des églises, et il parle au pape en disant chef des églises, hein. C'est à la fin de la tribulation. Quand le pape sera devenu chef des églises, dès que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, toutes les races de la terre se frapperont la poitrine. L'église orthodoxe, protestante, catholique, de toute tendance, ne feront qu'une seule église. Ce sera la réalisation du chapitre 10 de Saint Jean. Il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul pasteur. Et il le dit, vous chef des églises, je vous le dis, c'est par cette croix dressée sur le monde que les nations seront sauvées. Et les jeunes, bien c'est ça, voici qu'apparaît dans le ciel le signe du Fils de l'homme, ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas, rien n'est perdu. Vous voyez, c'est l'inverse de la secte qui promet le salut qu'à ses membres. Et bien là, au contraire, le Christ dit, ne vous inquiétez pas, soyez dans la joie, ne vous lamentez pas, soyez humble, patient, charitable, hein, et maintenant doit s'accomplir le temps des nations. Tous se frapperont la poitrine, voilà la réconciliation du monde autour de l'Église catholique. Je me demande comment certains peuvent dénigrer ça, s'ils comprenaient que c'est justement le salut de l'Église catholique. Dozulé, c'est la solution catholique face aux sectes et face à l'apostasie générale qui se prépare et face au schisme qui est imminent, parce que ce schisme dont vous parlez, il va arriver sous la force, sous la pression. Nous aurons une dictature formidable au moment de cette invasion, qui va être faite par la mafia ou par les tenants de la nomenclatura actuelle. Rouskoï en parle dernièrement, et Jirinovski en a parlé cet hiver. Ils veulent faire la Grande Russie, ils veulent obliger toutes les nations satellites à rentrer dans la Confédération russe. Et qu'est-ce qu'ils vont faire étant tabou économiquement? Eh bien, ils diront, mais mes pauvres amis, il faut aller à l'Ouest, c'est tout. Eh bien, ici, le Christ...
Il y a une étonnante logique.
Mais c'est évident. C'est quand le loup a faim qu'il sort du bois. C'est pas quand il est repu. Le système s'écroule, va être au contraire une motivation supplémentaire pour... D'ailleurs, vous voyez, c'est exactement ce que disait un membre du KGB, dont je cite les déclarations dans mon livre, là, et qui expliquait qu'il déclencherait un mouvement électrisant de sécurité et de réconciliation avec l'Ouest, et que les stupides et décadents, la bourgeoisie, se jettera sur l'occasion de se faire de nous des amis, et c'est à ce moment-là que nous les écraserons en attaquant les premiers.
Avec notre point de fer. Voilà, exactement. La phrase exacte, nous les écraserons de notre point de fer. Ça a été dit à l'école militaire
Lénine de Moscou, oui.
Une phrase.
Eh bien, vous voyez, le Christ ici dit au contraire, ne vous inquiétez pas, soyez dans la joie, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous ceux qui ne voudront pas, à ce moment-là, Gog et Magog, donc ces gens qui voudront massacrer l'Église, seront jetés dans le feu pour les siècles des siècles. Mais dites aux mourants repentants qu'ils seront dans cette lumière merveilleuse, que plus grand est le péché, plus grande est ma miséricorde. Mais en même temps, il nous dit après l'évangélisation du monde entier. Voilà pourquoi moi je dis que, vous voyez, ce message est capital, c'est qu'il confirme, et surtout il annonçait avant Jean-Paul II, il confirme ce que disait Jean-Paul II à Saint-Jacques de Compostelle aux jeunes il y a quelques années, et ce qu'il a répété à Chestokova en leur disant, partez, pour la nouvelle évangélisation. Les jeunes n'ont pas compris du tout, ni même le clergé, parce qu'on se demande aujourd'hui comment ils vont pouvoir la faire. Eh bien, c'est le chapitre 3 de Joël. « Voici que je répandrai, après ces jours de détresse, voici que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Voyez, « Ceux qui viendront en mon nom parleront des langues inconnues d'eux, dit le Christ à Dozulé. » Tous, voilà, après l'évangélisation du monde entier, alors je reviendrai dans la gloire. Peut-être dans la, si nous faisons une autre réunion, on pourrait parler justement de la sécheresse mondiale et surtout de la période de l'Antichrist qui est extrêmement importante et qui est annoncée par l'Écriture. Mais une dernière petite précision, il faudrait que les gens comprennent que l'Apocalypse de Saint Jean n'est pas la propriété des sectes et que ce n'est pas l'annonce de catastrophe. Au contraire, j'ai entendu Poivre d'Arvor l'autre jour au sujet de cette secte du Temple solaire dire ils ont annoncé l'Apocalypse, mais il faudrait peut-être savoir que l'Église annonce l'Apocalypse pas du tout comme un message de catastrophe, mais comme un message de joie et de délivrance, de cris, de pleurs, de mort, il n'y en aura plus. Voici que je fais l'univers nouveau, et je vis le ciel et la terre s'en aller de devant sa face, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, et je vis la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel. Et ça, c'est l'annonce à toute l'humanité de la fin de la maladie, de la fin de la tristesse, des pleurs, du chômage, de la pauvreté. Et c'est pas du tout une annonce démagogique. Cet été, j'ai eu le bonheur d'aller au mois de juin dans cette petite grotte de Patmos, dans l'île de Patmos, au large de la Turquie, où Saint Jean a eu justement la dictée du livre de l'Apocalypse. C'est un endroit merveilleux. Et là, on se rend compte que, avec les orthodoxes, nous formons une seule famille et que véritablement, nous ne devons absolument pas accepter cette confrontation artificielle et scandaleuse qui consiste à opposer les orthodoxes et les catholiques du côté des musulmans, comme nous le voyons en Yougoslavie. Cette séparation est fabriquée de toutes pièces par les Américains d'un côté et par les Russes de l'autre, alors que nous devons former un seul troupeau chrétien face à l'hérésie qui nous vient du Sud, n'est-ce pas? Et c'est ça la grande tribulation, c'est... voilà.
Merci Jean Tigler.
Alors, une dernière précision si vous voulez, pour les auditeurs qui veulent se procurer ce livre. En ce moment, il a été épuisé assez rapidement en librairie. Il y a une distribution qui est recommencée par les éditions du Rocher. Si vous ne pouvez pas le trouver, il s'appelle « L'avenir avant l'an 2000 ». Vous le commandez à votre libraire, on vous le livrera très rapidement. Ou vous l'aurez encore plus vite en 24 heures en écrivant à ACB. 14-430, les trois lettres de l'alphabet, A, C, B, 14-430, Dozulé, et vous envoyez un chèque de 125 francs, plus 25 francs de port, un chèque donc de 150 francs, et ACB Dozulé vous enverra ce livre par retour du courrier dans une enveloppe distinguo, distribuée en main propre par la poste. Voilà.
Merci bien. Sans transition, comme dit celui que vous citiez à l'instant, Monsieur Jean-Paul Chérigas de Olmeta.
Bonsoir, monsieur.
Alors, vous allez, c'est un peu ridicule de vous faire parler aussi, d'une façon aussi brève, mais on va pas faire un portrait de l'Espagne contemporaine. Je voudrais simplement que vous racontiez à nos auditeurs, exactement comme vous me l'avez raconté, ce qui vous est arrivé en Espagne il y a quelques jours à l'occasion d'un voyage.
Voilà. En Espagne et au Portugal. Et il y a deux aspects. Il y a l'aspect purement religieux et l'aspect purement civil. Alors comme ça, par touche. Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, arrivant en Galice, cette partie du pèlerinage que je faisais avait un caractère officiel, puisqu'il y avait des anciens serviteurs de la maison du roi qui accompagnaient ce pèlerinage. Et il y avait qui recevait donc les Français, et il y avait une guide, probablement sélectionnée, parce qu'il fallait qu'elle parle très bien le français, chargée de tout nous expliquer. Et elle a été enchantée de nous annoncer que nous étions en Galice, la terre natale du dictateur Franco, et qu'on avait pu constater que, Dieu merci, il n'y avait plus une seule rue en Galice qui portait le nom de Francisco Franco. Première surprise. C'est la même qui, sur la place de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, expliquait, sans qu'on lui demandât rien d'ailleurs, le fonctionnement politique de l'Espagne en nous disant qu'à l'heure qu'il est, le président de l'Espagne était M. Felipe González, qui représente l'Espagne dans le monde entier. Et alors j'étais un peu surpris.
Le socialiste Felipe González.
Socialiste Felipe González, oui. Et j'étais surpris, j'ai un peu regardé mes amis espagnols, qui n'ont pas moufté, si j'ose dire. Et je me suis quand même un peu permis de dire, mais il y a le roi, oui, non, mais celui qui représente vraiment l'Espagne, c'est Felipe González. Très bien.
Et ça, c'est un discours qui est tenu par une guide.
Une guide officielle.
Officielle qui, recrutée pour.
Pour recevoir des Français de qualité, encadrés par des gens de la Maison du Roi. Ouais. Déjà, on voit déjà où on est.
Voilà.
Et la même guide nous explique à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a la cathédrale, et sur le côté gauche, quand on regarde la cathédrale, il y a un ancien hôpital de pèlerins superbe qui est devenu, il y a des années, un parador de grand luxe. Alors elle expliquait qu'une fois par an, quand le roi ou son fils, à l'occasion de la Saint-Jacques, viennent à Saint-Jacques-de-Compostelle, on les loge dans cet hôtel. Très bien. Et elle ajoutait perfidement, et ce n'est pas eux qui payent. Et là, votre serviteur n'a pas résisté, il n'a pas fait écouter quand le président, entre guillemets, Gonzalez se déplace, c'est vous aussi qui devez payer en qualité de contribuable.
Alors, oui, ça, c'est quand même, bon, c'est des petites anecdotes, oui. Mais c'est des anecdotes qui, pour ceux qui ont connu l'Espagne, je pense au président du comité éditorial de cette radio, Jean Ferré.
Ah oui, à votre serviteur aussi, en 63.
Vous, ça doit quand même surprendre un petit peu.
Agaçant, surtout.
De voir à quel point, quelques années après la mort de Franco, ce pays s'est en quelque sorte retourné, inversé.
Oui, mais sans qu'il y ait apparemment une volonté officielle au plus haut niveau, ça s'est fait, ce qui est plus grave, à la limite presque en douceur. Autre exemple, à Salamanque, il y a une Plaza Mayor, comme il y a dans toutes les grandes villes d'Espagne, et là, ça a une particularité, autour, il y a un peu comme à Saint-Paul-en-les-Murs, les médaillons de tous les rois qui se sont succédés. Très bien, on regarde ça, on prend une photo, puis voilà. Et la guide à qui on ne demandait rien ajoute, et il y a le médaillon de Franco, et cela cause un problème à travers toute la ville, les gens se bagarrent pour savoir si on doit le laisser ou pas. Et personne, une fois de plus, ne réagit, et votre serviteur, je dis, ça, vous trouvez ça extraordinaire qu'il y ait le médaillon de Franco? Bah oui, il ne devrait pas y être. Mais ben là, il a dit, au lendemain de la croisade, quand j'ai dit croisade, ça n'a pas tellement plu, que à partir de maintenant, il rétablirait la monarchie, mais en attendant, il était le régent, donc il s'inscrit parfaitement dans la ligne des médaillons, et là, on a parlé d'autre chose. Et à la coupure de la visite, cette guide sélectionné, trié sur le volet, est venu me dire, vous savez, je parle pas très bien le français. J'ai dit, non, au contraire, vous le parlez très bien, mais c'est l'excuse qu'on a toujours quand on veut faire passer un message merdeux. Ça, c'est l'aspect civil.
L'aspect... Ça montre bien, entre nous, que il n'y a pas qu'en France que,
non, bien sûr,
qu'on en est là.
Il y a ce truc insidieux, comme ça. Alors ça, c'était l'aspect civil. L'aspect religieux, je pense très vite à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai cette formule désastreuse. Je me dis, les types qui partent à pied, animés d'une foi totale, quand ils arrivent et qu'ils voient ce qu'ils voient, j'ose espérer que ça les ébranle pas, parce que c'est épouvantable. Et j'ai eu une très mauvaise surprise. J'avais enfin entendu latin. Il y a la messe des pèlerins. La messe des pèlerins, le latin, langue universelle de l'Église, c'est le moment où jamais, quand il y a des gens qui convergent au moins de tous les coins de l'Europe,
du monde entier.
Pas du tout, tout en espagnol basique, dans une ambiance de foire effrayante, c'est effrayant. Ce jour-là, par bonheur, comme il y avait une délégation vénézuélienne, c'était pas pour nous, on avait décidé de balader l'encensoir durant une messe, et c'est exactement comme si on avait une trapéziste au-dessus de l'hôtel, c'est-à-dire que tout le monde se fout de ce qui se passe à ce moment-là pendant que le prêtre dit sa messe, c'est extravagant. Voilà. Et puis, bah, puisqu'il faut faire court, je vous dirais, j'ai rencontré la même chose au Portugal, à Fatima. Je veux dire, j'étais assez surpris par des... Alors là, j'étais plus dans un pèlerinage à caractère officiel. Je finissais à titre privé le voyage. Je me suis retrouvé à Fatima, assez impressionné par ce que je voyais. Mais j'ai entendu des prêtres français, un franciscain entre autres, qui encadrait des gens de la procure. Pourquoi pas leur faire de la publicité. Et le prêtre, un autre prêtre français avait célébré la messe. Il a accompagné un pèlerinage de la Manche. Il avait rappelé ce que vous disiez à l'instant, le message de Fatima, je résume très vite, l'enfer, le ciel, le chapelet et la confession. Bon, enfin, mais il disait ça très simplement, et c'était lumineux. Eh bien, le père franciscain a réuni après la messe ses oies, il a dit d'abord on fout le camp parce que les processions c'est chiant, c'est déjà formidable quand on a Fatima. Oui. Et puis tout ce que vient de dire mon confrère, vous savez, c'est un vieux réac. Voilà, alors ça c'était la partie religieuse au Portugal, et puis dernière chose, au Portugal, à Coimbra, la guide officielle qui trimbalait des Français... auquel je m'étais accroché, nous emmène sur la place où il y a les universités et les bâtiments modernes qui ont été construits au début du siècle, ou un peu plus tard, et la guide dit, vous savez, vous êtes ici dans un endroit, alors Coimbra, la plus vieille ville d'Europe, plus vieille ville universitaire, et c'est le président Salazar, le dictateur, virgule, ami intime d'Hitler, qui a déporté les populations qui habitaient ici pour construire cette nouvelle université très laide. Alors bon, je laisse débloquer, et après, maintenant on est au Portugal. Et c'est donc plus la même que l'autre. J'ai dit, mais enfin, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous dites déporté. Oh, mais monsieur, je parle pas tellement bien le français. J'ai dit, mais c'est curieux, vous parlez pas bien le français, vous trouvez toujours le mot exact qui blesse. Et bien voilà, je voulais vous raconter ça. Voilà,
non, mais c'est plutôt réconfortant de voir qu'on n'est pas les seuls à...
Mais j'étais le seul à réagir.
Merci, Jean-Paul. Merci encore, monsieur Stigler.
Je rappelle
et puis,
les coordonnées de son livre, L'avenir avant l'an 2000, Le secret de l'église dévoilée, édition du Rocher. Ça, c'est chez les libraires, ou en direct à ACB, 14 430 de Julé, avec un chèque de 150 francs.
Voilà, et puis ben, je vous invite à revenir dans... On va fixer la date comme ça, d'ici un mois à peu près, pour reparler des questions qui se posent autour de cette de ce mystère de Dozulé, de ces messages de Dozulé, et notamment des questions relatives à ce qui intéresse beaucoup nos auditeurs, à, ouvrez les guillemets, la fin du monde, fermez les guillemets, ou, ouvrez les guillemets, la fin d'un monde, fermez les guillemets.
Et notez sur vos agendas le dimanche 13 novembre à midi, l'heure de vérité de Jean-Marie Le Pen.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, daté du 26 octobre 1994, et rediffusé ce dimanche 7 octobre 2012 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander un CD-ROM au lieu des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. C'est blanc.